Merci, frère Orman. Très bien, très bien. C'est si agréable d'être de nouveau à l'église ce matin et d'avoir ce temps de communion fraternelle autour de ces glorieux articles de Dieu. Et bon, nous ne sommes jamais pressés ici au tabernacle, vous savez, comme nous prenons un peu plus notre temps. Par moments, ça peut devenir assez fatigant pour ceux qui sont debout. Et comme on peut, du moins dans la mesure où c'est possible, changer de place de temps à autre et donner... Si quelqu'un, si les enfants voulaient venir un peu plus près ici, je pense qu'on peut encore en asseoir quelques-uns. Et il y a encore 2 sièges, 3, à peu près 4 ici sur l'estrade. Si quelqu'un qui est là derrière voulait monter ici pour être bien, ou alors si quelqu'un est un peu timide, vu que c'est la première fois qu'il se trouve dans cette église, et que quelques-uns des anciens alors voulaient monter s'asseoir ici, nous les accueillerions volontiers sur l'estrade. Comme ça, quelqu'un d'autre pourrait avoir un siège. Quelques-uns des diacres ou un ministre de l'Évangile ou quelqu'un qui voudrait monter sur l'estrade, ce serait peut-être une bonne occasion de donner un siège à quelqu'un d'autre qui est debout. Il y a encore des gens qui arrivent. Ils essaient de se trouver une place sur le terrain derrière. Quand ils voient que l'allée est bloquée, alors ils repartent et ils ratent le service. Bon, il y a encore un siège ici devant, je crois. C'est bien ça, jeune dame? Juste ici. Il y a un siège ici, juste devant. Juste ici. Et je vois frère Woods qui se lève. Il y a 2 sièges de plus, juste ici. Continuez simplement à vous avancer dans cette direction-ci. 2 sièges de plus. Juste ici, devant. Si quelqu'un veut venir devant, il y a 1, 2, 3 sièges libres ici. Peut-être même 4 sur l'estrade. Si vous venez, eh bien, alors, ça libérera quelques sièges au fond. C'est que souvent les gens entrent après le début du service. Ils regardent tout autour, à la porte de derrière, puis ils ressortent et ils ratent les services. Il y en a un ici, juste au centre, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Avec ça, ça fait maintenant 5 sièges qui sont libres ici devant. Avancez-vous, soyez bien à l'aise, faites comme chez vous. Que le Seigneur te bénisse, frère Georges. Je suis content de te voir de nouveau ce matin. Pendant que... C'est très bien ça. Sœur, bon, vous, si la demoiselle, il y en a un juste là-bas pour elle. Juste là, ma chérie. Va juste là-bas où il y a cet homme debout. Ah, juste là, oui. C'est bien. Quand tous les gens sont assis confortablement, ils se sentent mieux. Ils se sentent comme si on pouvait... Je sais qu'ici, ce n'est pas le grand confort. Mais nous voulons quand même faire tout ce que nous pouvons pour que vous soyez au moins le mieux possible. Maintenant, nous attendons avec impatience la série de réunions à venir. Nous anticipons de grandes bénédictions futures. Cette série de réunions à venir de caractère prophétique. Bon, ce matin, j'ai dit aux gens que j'allais prier pour les malades. Et alors, celle-ci sera la dernière occasion que j'aurai de prier pour les malades à l'église, jusqu'à ce que cette série de réunions soit terminée. Pendant cette série de réunions, nous voulons nous en tenir à l'aspect prophétique autant que possible. Ensuite, après ça, peut-être avant Noël, je pense, j'aimerais peut-être faire encore quelques soirs de réunions sur Daniel, ici à l'église. En effet, peut-être que le premier de l'an, je partirai de nouveau. Et je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et donc, s'il y a des gens qui comptent venir et qui voudraient réserver des chambres à des motels et tout, nous avons fait des arrangements pour ça, pour pouvoir réserver des chambres. Et M. Maurice, qui a été guéri du cancer de la gorge, il était un acrobate. Il s'est allié par le mariage à la famille du Dr Adair, mon ami qui habite ici en ville. Et c'est lui qui l'a opéré d'un cancer de la gorge. Il se mourait. Et le Seigneur m'avait conduit chez lui, il y a 6 ou 7 ans passés, il était étendu là-bas, chez sa sœur, il se mourait du cancer de la gorge. Et l'autre jour, je l'ai rencontré ici, chez le barbier, en train de témoigner. Il a dit, « Je ne pouvais même pas avaler. » Et il a dit, 5 minutes après qu'on a prié pour moi, j'ai mangé mon dîner. Et il a dit que depuis, il n'y en a plus la moindre trace. Il dirige le motel Wayfair. Et il a dit, « Billy, j'ai appris que tu vas faire une série de réunions prochainement. Tous ceux de tes fidèles qui appelleront ici, je leur donnerai le tarif le moins cher. Il a un motel neuf ici. Et je leur donnerai le tarif réduit accordé aux familles et tout. » J'ai pris ses cartes elles se trouvent au bureau et tout. Nous pourrons aussi prendre contact pour trouver d'autres endroits où nous, après avoir épuisé ces réservations-là, où nous pourrons obtenir les meilleurs tarifs, les meilleures chambres, selon ce qui conviendra le mieux aux gens, à vos amis. Naturellement, beaucoup parmi vous, vous allez probablement loger quelques-uns d'entre eux dans vos propres maisons. Et c'est vraiment bien ça. Si vous pouvez prendre soin de quelqu'un, c'est plus confortable. C'est comme chez soi, vous savez, quand on peut être avec des chrétiens et avoir de la communion fraternelle. Alors, vous pouvez revoir un peu, parcourir un peu les Écritures ensemble. Je désire que chacun de vous apporte son carnet, apporte son crayon. En effet, nous allons citer des époques, des dates, des passages de l'Écriture sur le sujet des sept âges de l'Église, les derniers sept âges de l'Église, et montrer la façon dont tout cela prend forme. Et c'est un message prophétique. Après, premièrement, je vais prêcher ça, puis ce sera mis sur bande magnétique, ce sera ensuite mis sur disque. Après quoi, on prendra ça en sténo, et puis on le dactylographiera sous forme de livre. Et les livres, ce sera un commentaire sur les sept âges de l'Église. Si je n'étais pas d'avis que c'est essentiel, si je n'étais pas d'avis qu'on en a vraiment besoin, je ne prendrais certainement pas le temps des gens pour dire ces choses. Mais je crois que ce sera peut-être la toute dernière fois que nous les recevrons, dans cette Église en particulier. Donc, soyons vraiment en prière pour ça. Là, vraiment en prière. Maintenant, la semaine prochaine, je dois me rendre en Louisiane, vous savez, pour les réunions là-bas. Alors, je serai à Shreveport, en Louisiane, du 24 au 27. À Shreveport, en Louisiane, avec Frère Moore. Là, ce sera un simple service d'évangélisation, c'est tout. Ensuite, je reviens ici le 29 ou le 30. Et le 4 décembre, nous commençons ici. Bon, il y aura un message le matin. Et maintenant, si le soir, je ne suis pas parvenu à transmettre ça, ce qu'il en est de cet âge de l'Église-là, comme je trouve que ça devrait l'être, pour que les gens comprennent parfaitement, alors je continuerai le lendemain matin ou le lendemain après-midi, ici au tabernacle, pour terminer celui-là. Et ensuite, je retournerai à l'âge de l'Église le soir d'après. En effet, je veux bien m'assurer que tout a été saisi, voyez-vous, parce que c'est essentiel. Nous savons que nous vivons dans un temps très étrange, et nous le savons. Avoir la tournure que prennent les choses. Et maintenant, là-dessus, et ce que je dis ici au tabernacle, s'il y a des nouveaux venus, la raison pour laquelle j'apporte ces messages et tout au tabernacle, et non sur le champ d'évangélisation, c'est parce qu'ici, c'est notre base d'opération. Et j'estime qu'ici, je peux prêcher la doctrine telle que je la vois, telle que je la crois. Alors, ça ne contredit pas la religion de qui que ce soit, voyez. Ce qu'ils veulent croire, eux, ça, c'est en ordre. Et bon, bien des fois, vous savez, si nous allions tous faire prendre nos empreintes digitales ce matin, il n'y aurait pas deux personnes parmi nous qui auraient des pouces pareils. On dit qu'il n'y a pas deux nez qui soient pareils. J'imagine que vous êtes tous heureux que le vôtre ne soit pas semblable au mien. Mais il n'y a pas deux personnes qui soient exactement pareilles. Alors, pas deux choses. Alors, souvenez-vous-en. Par contre, tous nous admettons et tous nous serons d'accord que nous aimons le Seigneur Jésus. J'ai dit, si un catholique romain, s'il compte sur l'Église catholique, d'ailleurs, c'est ça leur doctrine fondamentale, mais s'il croit que c'est l'Église catholique qui va le sauver, il est perdu. Mais s'il a la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et s'il compte sur lui pour son salut, il est sauvé. Si un méthodiste, un pentecôtiste ou un baptiste, s'ils comptent sur leur église ou sur leur organisation pour leur salut, ils sont perdus. Mais s'ils comptent sur Jésus-Christ et qu'ils l'ont accepté, lui, en effet, c'est votre foi personnelle en Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauve. Que vous soyez baptiste, pentecôtiste, luthérien, catholique, juif ou n'importe quoi d'autre, c'est votre foi personnelle en Jésus-Christ. Et ceci est sur bande magnétique. On enregistre maintenant même. Alors je veux m'assurer que tout le monde le comprend bien. Par contre, quand on prêche une doctrine, alors on doit s'en tenir à sa propre croyance. Sinon, on est un hypocrite. Si on dit quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a dit, tandis qu'on ne le croit pas du fond de son cœur, alors on est un hypocrite. Parce qu'on dit quelque chose qu'on ne croit pas. Je préférerais me faire critiquer un peu pour des choses que je crois effectivement, plutôt que d'être un hypocrite aux yeux de Dieu, pour avoir essayé de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. Et alors, au cours de ces réunions que nous ferons ici, il se peut que vous ne soyez pas du tout d'accord sur certains points. Mais ne vous fâchez pas avec moi, parce que je vous aime. Et c'est vrai ça. Je pense que je suis très clair là-dessus. Je crois que chacun de vous, que vous soyez catholique, protestant, juif ou quoi que ce soit, si vous comptez sur Christ et que vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel, vous êtes sauvé. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela par la grâce. Et alors, nos églises, là, les églises auxquelles nous sommes affiliés, ça ne comptera pas beaucoup. Mais je pense qu'à ce propos, si vous venez sans parti pris, vous découvrirez que c'est justement l'église dénominationnelle qui nous a divisés comme nous le sommes maintenant. C'est ça qui était la cause du problème. Voyez, si nous avions seulement laissé ça comme c'était. Maintenant, il y a quelque chose ici que je tarde à dire. Et je voudrais citer quelque chose. Et je suis sûr que vous, qui êtes du tabernacle ici, mes amis, vous savez que si je dis ceci, ce n'est pas pour dire, vous voyez, je vous l'avais bien dit, ce n'est pas mon intention. J'espère que je n'en arriverai jamais au point où je me présente devant les gens comme un « je sais tout ». Si jamais j'en arrive là, je vous en prie, que quelqu'un vienne me corriger, qu'il me redresse et me dise « Hé, un instant là !» Voyez, je ne veux pas être comme ça. Mais quand Dieu dit quelque chose et que la vérité en est démontrée, j'aime que la chose se sache. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Et comme je le disais dimanche passé, je crois, ici, il y a 28 ans que je suis derrière cette chaire, et pas une seule fois je n'ai parlé de politique, en aucun cas, jusqu'à dimanche passé. Et je vous ai simplement dit de prier avant d'aller aux urnes, de voter. L'autre jour, je suis allé chez Frère Wright, et je pense qu'il est l'un des plus anciens, lui et Frère Roy Slaughter, et quelques-uns de ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années. Et Frère Wright n'a jamais su comment je votais. Il n'a jamais su si j'étais démocrate ou républicain. Pourtant, sa maison est mon second chez moi. C'est que c'est vraiment insignifiant. C'est pour ça, Frère Wright. Merci, merci. Personne n'a su comment je votais. C'est parce qu'aucun des deux partis n'a de quoi se vanter. Mais la semaine passée, la raison pour laquelle je me suis exprimé comme je l'ai fait, c'est parce que là, c'était plus qu'une question de politique. Je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée. En passant, M. Mercier et plusieurs autres vont prendre de ces anciennes prophéties. Ils vont les déterrer et les revoir un peu, ou les mettre à jour et les faire imprimer. Je voudrais lire certaines choses que j'aimerais que vous... Celle-ci d'abord. Je voudrais vous lire quelque chose.
1932, listen to this. As I was on my way...
1932. Écoutez ceci. Pendant que j'étais en chemin, que je m'apprêtais à me mettre en chemin pour aller à l'église, ce matin, j'ai eu une vision. Nos services se tiennent sur l'avenue Meigs, à l'ancienne orphelinat, où Charlie Kern habite une partie du bâtiment. Maintenant, il habite juste de l'autre côté de la rue, vous savez. Et pendant que j'étais dans cette vision, j'ai vu des choses terribles se dérouler. Je dis ceci au nom du Seigneur. Le président actuel, le président Franklin D. Roosevelt, or souvenez-vous, ça, c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie. Et il s'emparera de l'Éthiopie. mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. Nous entrerons en guerre contre l'Allemagne. Surveillez la Russie. Maintenant, ça, voyez-vous, le communisme, le nazisme et le fascisme. Surveillez la Russie. Mais ce n'est pas surtout elle qu'il faut surveiller. Également, on a fait une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme. Et celle-ci contaminera cette nation, comme Ève a contaminé l'Éden. Maintenant, vous voyez pourquoi j'insiste autant que je le fais? J'ai l'ainsi dit le Seigneur. Par son vote, elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands construiront. Ce sera un grand mur en béton. La ligne Maginot, 11 ans avant qu'ils en entreprennent la construction. Mais ils finiront par être vainqueurs. Après, une fois que les femmes ont eu facilité l'élection de la personne qu'il ne fallait pas, alors j'ai vu une femme imposante s'élever aux États-Unis, bien habillée et ravissante, mais cruelle dans son cœur. Elle va soit conduire ou entraîner cette nation dans la ruine. J'ai mis, entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. De plus, la science va se développer, en particulier dans le domaine de la mécanique. Les automobiles prendront de plus en plus la forme d'un œuf. Finalement, ils en fabriqueront une qui n'aura pas besoin de volant. Ils l'ont maintenant. Elle sera commandée par une puissance autre que le volant. Ensuite, j'ai vu les États-Unis, qui n'était plus qu'un endroit fumant, complètement brûlé. Ce sera près de la fin. Ensuite, j'ai mis entre parenthèses, je prédis que ceci arrivera. Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur, ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Mais je prédis que ceci arrivera avant 1977. Cette prédiction, je la fonde sur l'attaque imminente qui doit se faire maintenant. À voir la rapidité avec laquelle les choses se déroulaient. Le temps qu'il faudra avant que cette nation en arrive à ce point. Maintenant, regardez maintenant ce qui s'est produit. Le président Franklin D. Roosevelt, il a conduit l'Amérique au Tea Party de l'Angleterre. C'est exact. L'Allemagne ne nous avait jamais cherché querelle. C'est nous qui lui avons cherché querelle. C'est ce qui a plongé le monde entier dans une guerre. Ce qui a causé la guerre mondiale. Les Allemands ont construit la ligne Maginot. Et là-bas, tous les anciens combattants ici savent ce qu'elle a subi là, à la ligne Maginot. Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le président désigné, Kennedy. C'était le vote des femmes, l'homme qu'il ne fallait pas, ce qui va finalement conduire à une emprise totale de l'Église catholique sur les États-Unis. C'est alors que la bombe vient la faire exploser. Sept choses ont été prédites, et cinq d'entre elles se sont déjà produites. Donc, vous pouvez juger par vous-même où nous en sommes. Nous sommes près de la fin. Si ces cinq choses-là se sont produites, sûrement que les deux autres choses vont aussi se produire. Elles ne peuvent pas faire autrement que de se produire. Je ne pense pas que l'impact de M. Kennedy se fera beaucoup sentir tout de suite. En effet, comme président, il sera formidable. Ceci afin de faire entrer les autres, pour que toutes les conditions soient réunies, que ce soit exactement comme en Angleterre, comme ce qui s'est fait au Mexique, comme ce qui s'est fait partout ailleurs, comme ça. Et les Américains sont tellement instables. Ils ne sont pas spirituels. Ils sont intelligents, mais ils sont trop intelligents. Ça ne les avance à rien. L'intelligence se retourne quelquefois contre son possesseur et elle a l'effet inverse que prévu. Alors il... C'est là-dessus que je vais prêcher ce matin dans un petit moment. Alors nous voyons que nous sommes tout au bord. La raison pour laquelle j'ai dit ceci, c'est pour ça que j'insistais tant là-dessus l'autre jour. Mais voilà ce qui en a été la cause. C'est exact. Le vote des femmes, c'est ce qui a mis... Avez-vous remarqué les meetings à la télévision? Du côté de Nixon, c'était presque tous des hommes. Elle voulait toutes embrasser Kennedy, les femmes. Elles sautaient à califourchon sur les voitures et tout, comme ça, elles sautillaient. Et maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est sur bande magnétique. Et ceci aussi, on l'enregistre. En 1956, à Chicago, dans l'Illinois, je me tenais à l'école là-bas, l'école secondaire Lane Tech. Ils y étaient. J'ai dit, cette année marquera le tournant pour l'Amérique. Je venais de rentrer d'outre-mer. Je ne sais pas pourquoi j'étais revenu. Je suis revenu. J'ai annulé mes réunions en Afrique et un peu partout. Je suis rentré. Billy Graham, c'était mystérieux, il a annulé les siennes. Tommy Osborne a annulé les siennes. Et nous tous, nous avons parcouru les États-Unis d'un bout à l'autre pour des réunions. J'ai dit, cette année, l'Amérique va soit recevoir Christ, soit le rejeter. Ensuite, j'ai dit, quand on a élu dans l'Indiana un garçon de 22 ans comme juge, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Et j'ai dit, ils finiront par avoir un président qui sera un président du genre beatnik, un playboy, avec les cheveux taillés en brosse, un homme à femme. Or, ces prédictions-là ont été faites il y a des années. Vous voyez où nous en sommes? Il est plus tard que nous le pensons. Alors, je pense que ces messages sur les sept âges de l'Église tombent vraiment à point. Soyons en prière et étudions. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous dites, « Je pense que Frère Branham est dans l'erreur », ça, vous avez le droit de le faire. Mais avant que nous le fassions, avant que vous le fassiez, examinons bien ce que le Seigneur a dit par les Écritures. Voyons si, et puis, les prophéties qui ont été données, qui devaient s'accomplir, regardez et voyez si elles se sont accomplies, oui ou non. Bon, c'est sur bande et tout. Vous savez que j'ai prononcé ça il y a des années, et voici qu'elles s'accomplissent maintenant. Mussolini est allé en Éthiopie, n'est-ce pas? Ces pauvres gens de couleur là-bas, avec des faux, des lames et des bâtons pour combattre. Et lui, avec l'équipement moderne, il les a tout simplement massacrés. Il est revenu en s'en glorifiant, mais il n'a pas échappé à son destin funeste. C'est exact. Et les Américains et les Allemands ont construit la ligne Maginot. Et les Américains y ont subi une défaite écrasante. Mais ils ont fini par vaincre. Tout à fait exact. Vous, les frères qui sont des anciens combattants, vous le savez. Et vous tous, au jour J et tout. Et quand ils ont débarqué là-bas. Et maintenant, vous voyez que les femmes, en ayant obtenu le droit de vote, alors elles ont élu un président qu'elles n'auraient pas dû élire. Voyez, c'est la chute en question. Avec toutes ces choses sous nos yeux, maintenant, nous approchons de cette série de réunions que nous aurons prochainement. Soyez en prière et priez ardemment, là, que Dieu nous bénisse et qu'il ouvre notre entendement, afin que nous sachions à quelle heure nous vivons. Maintenant, courbons la tête pour un mot de prière. Notre bienveillant Seigneur, alors que d'un côté je tremble de savoir que pour ce monde c'est le temps de la fin, je ne saurais dans quel pays me réfugier. Il n'y a pas d'autre refuge que de regarder en haut. Car il nous est dit, quand ces choses commenceront à arriver, alors de regarder en haut. Parce que notre rédemption approche. Ô Dieu, je prie pour ce monde de péché aujourd'hui, l'état dans lequel il est, en voyant tout ce qui se passe. Je te prie, Seigneur, de parler d'une façon ou d'une autre à chaque cœur, à chaque ministre de l'Évangile, afin qu'il soit une flamme ardente dans ces derniers jours, pour appeler l'Église du Dieu vivant à la repentance et à un nouveau retour à la foi. Comme nous le savons, nous vivons dans l'âge de l'Église de Laodicée, où les gens seront tièdes. Je te prie, Père, de nous donner de retenir fermement ce que nous avons, Christ, en attendant le jour de son apparition. Pardonne-nous nos péchés, comme nous avons pardonné à ceux qui ont péché contre nous. Et nous savons maintenant, Seigneur, alors que nous voyons le monde extérieur, nous savons que ces choses devaient arriver. Il n'y a pas moyen de les arrêter. Bien que nous parlions contre elles et que nous élevions la voix contre elles, pourtant, dans nos cœurs, nous savons que, selon ta parole, elles arriveront de toute façon, car tu l'as dit. Mais au jour du jugement, quand la grande bande magnétique de Dieu sera jouée, nous voulons que l'on entende notre voix s'élever contre le mal et en faveur du bien. Encourage-nous aujourd'hui, Seigneur, par ta présence. Bénis tous les ministres qui sont ici et tous les laïcs de l'Église, tous ceux qui sont nés de nouveau partout dans le monde, tes glorieux tisons qui se font entendre à la radio et ceux qui sont dans d'autres parties du monde en train de prêcher l'Évangile, des missionnaires affamés, des maris et femmes en but à de vives persécutions, mais qui sont toujours solides au poste. Ô Dieu, bénis-les aujourd'hui. Et dans le petit tabernacle, donne-nous de tes bénédictions, Seigneur. Oins-nous. Bénis ceux qui, ce matin, ont chanté les merveilleux cantiques de Sion, qu'au fil des années, nous avons chéri dans nos cœurs, en sachant qu'un jour, nous nous tiendrons là à chanter ces cantiques en présence de l'agneau. Bénis la parole aujourd'hui et oins le message, Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Ce matin, je veux attirer votre attention sur un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre de la Genèse. Et maintenant, je vais essayer d'apporter ce message aussi vite que possible, si le Seigneur le veut, parce que nous voulons prier pour les malades et avoir un service de baptême. J'aimerais que vous preniez le premier livre de la Bible, au chapitre 1 de ce livre, Genèse chapitre 1, et commençons à lire à partir du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il rassembla les eaux et il les appela mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, des herbes portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnèrent du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, je veux prendre comme texte le sujet suivant. La condamnation par représentation. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Il y a 2 ou 3 semaines, je traversais les États de l'Ouest. Et en regardant, je roulais, j'étais seul, j'allais rencontrer les hommes d'affaires chrétiens dans l'Idaho. J'ai été étonné de voir les panneaux publicitaires, les annonces de la publicité. On peut pratiquement, en regardant autour de soi, voir à quoi les gens pensent et ce qui leur tient à cœur. Comme je l'ai souvent dit, faites-moi entrer dans la maison de quelqu'un et voyons un peu quel genre de musique ils écoutent. Faites-moi voir quel genre de livres ils lisent, quel genre de chants ils chantent, quel genre de photos ils ont dans leur maison. Je peux vous dire à peu près ce qu'est la nature de cette personne. Voyez? En effet, eux, ils auront beau témoigner du contraire, mais les fruits démontrent ce qu'il en est. Et j'ai remarqué que nous sommes une nation très scientifique, un monde très scientifique. Et j'ai remarqué que sur les panneaux publicitaires, surtout dans la zone de culture du maïs, dans l'Ouest, et tout, il y avait la photo d'un homme qui tenait un épi de maïs. Il épluchait le maïs en disant, « Ah, ça, c'est du maïs !» Et il s'agissait d'un maïs hybride réputé. Et d'une manière ou d'une autre, pendant que je pensais à ça, en roulant tout seul, et on ne peut plus garder la radio allumée, parce que, surtout dans les localités, où toutes les stations ne diffusent que cette espèce de musique boogie-woogie, et ce genre de choses-là, vous savez, le rock'n'roll, et on n'a tout simplement pas, sauf s'il se trouve qu'on se met à l'écoute à l'heure précise où il y a les informations et le bulletin météo. Après quoi, on est obligé de l'éteindre de nouveau. Alors, je crois que, peut-être, le Seigneur me venait en aide, et j'ai écrit au dos de ma carte routière « hybride ». En effet, quelque chose m'avait frappé quand j'avais regardé ça. C'était vraiment de beaux gros grains de maïs. Je me suis dit, comme c'est différent du maïs que nous cultivions, tout devient hybride. Mais savez-vous qu'il ne vaut rien? Il n'y a pas de vie dedans. Il ne peut pas se reproduire à son tour. Vous ne pouvez pas planter du maïs hybride. Si vous le faites, vous n'aurez qu'un champ de petites plantes rabougries, parce que c'était hybride. Ensuite, j'ai fait une excursion en montagne, et l'un des guides qui m'accompagnait était un éleveur de poulets. Il faisait l'élevage des poulets, et, comme passe-temps, il était guide dans les montagnes, un homme très bien. Et quand il a appris que j'étais prédicateur, eh bien, il s'est aussitôt mis à me parler des poulets hybrides. Alors, à ce moment-là, ça a ramené à mon esprit le petit texte que j'avais écrit sur ma carte routière. Hybride. Pendant que nous étions étendus dans nos sacs de couchage, sur la neige, là-haut dans la montagne, je lui ai dit, « J'aimerais en savoir plus long sur ce genre de poulet. » Eh bien, il a dit, la science a vraiment fait là une grande chose. Il a dit, ils ont croisé les poulets avec différentes choses jusqu'à ce qu'ils arrivent à produire des poulets qui n'ont presque plus de pattes ni d'ailes. Il ne reste plus que de la poitrine. Mais il a dit, le mauvais côté de l'affaire, maintenant, c'est que les gens n'en veulent pas parce que c'est une chair trop molle. Et ce poulet ne vit qu'une année, puis il meurt. Il est presque mort au départ. Vous voyez, c'est l'hybridation. Ce n'est pas bien, ça ne vaut rien. Et la plupart des gens, maintenant, quand ils veulent avoir un dîner délicieux dans lequel on sert du poulet, ils vont à la campagne s'acheter un poulet qui a des pattes. Il peut gratter le sol. Et des ailes, il peut voler. C'est un poulet tel que Dieu l'a créé. Mais c'est l'hybridation du poulet qui a fait qu'on n'a que de la poitrine et n'arrive pas à garder son équilibre. Et il faut le garder sur un grillage. On ne peut pas le sortir. Il ne peut pas gratter le sol. Il ne peut pas trouver sa nourriture. Et sa chair est si mauvaise qu'on ne peut rien faire avec ça. Et si ce poulet on en fait une poule pondeuse, ses œufs n'écloront pas. Et en plus, ce poulet va se crever à pondre pendant un an. Il ne vit qu'une année. Je me suis dit, eh bien, tu parles d'un poulet. L'hybridation, démolir ce que Dieu a créé. Puis, nous avions une file de mulets qui transportaient nos bagages. Et je remarque que le mulet aussi est hybride. N'imputez jamais ça à Dieu, d'avoir créé un mulet. Dieu n'a eu rien à voir là-dedans. Non, c'est l'homme qui a fait ça. Le mulet ne connaît pas son appartenance. Il ne peut pas se reproduire à son tour. Il est hybride, voyez. Il ne sait pas qui était son père, ni qui était sa mère. Et il ne peut pas se reproduire à son tour. C'est simplement un mulet. Et il est sur une mauvaise voie, en route vers la mort. Et peu importe combien il essaye de se reproduire selon son espèce, il ne peut pas le faire. Tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu a dit ici de Genèse 1:11 que chaque semence produise selon son espèce, car la vie est en elle. Que chaque semence produise selon son espèce. Mais l'homme essaie de montrer qu'il est plus intelligent que son créateur. Il veut prouver qu'il en sait plus là-dessus que Dieu. C'est pourquoi, par la science, il essaie constamment de montrer à Dieu qu'il en sait plus que lui. Et Dieu le laisse simplement continuer comme ça, poursuivre ses recherches scientifiques. Et c'est ainsi qu'il se tue lui-même. Dieu le laisse se tuer par sa propre ignorance. Ma mère, là-bas au fond, avait coutume de dire, « Si on lâche la bride à une vache, elle se passe elle-même la corde au cou. » Eh bien, c'est vrai. Elle laissait simplement, Dieu laisse simplement l'homme faire à sa guise, se passer lui-même la corde au cou par sa propre folie. Il ne sera jamais plus intelligent que Dieu. Dieu sait ce qui est bien. Mais les hommes, par l'hybridation, ils essaient de produire un produit meilleur que ce que Dieu a créé. Or Dieu, quand il a créé son église, il a créé une église de Pentecôte. C'était l'église originelle, une église de Pentecôte, remplie du Saint-Esprit, des hommes et des femmes conduits par l'Esprit de Dieu. L'homme n'a pas pu laisser ça tranquille, il a voulu hybrider l'église. Alors il a croisé le monde avec elle. La théologie, les doctrines, les dénominations. Oh, c'est sûr, ça produit une plus belle église. Ça, oui. Combien elle est différente de l'église originelle. Oh, nous avons de grands bâtiments, des prédicateurs instruits, la meilleure classe sociale, les gens de la haute société, les gens les mieux habillés. Ils y mettent leur nom, ils y mettent leur argent pour que leur église tienne le haut du pavé. Ils envoient leurs ministres dans des séminaires pour parfaire leur savoir et leurs connaissances en théologie, alors qu'ils les éloignent encore plus de Dieu, toujours plus. Ce n'était pas le plan de Dieu au commencement. Il n'a jamais envoyé un seul d'entre eux dans un séminaire. Il les a envoyés dans une chambre haute pour qu'ils y attendent jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, afin qu'ils soient des ministres ordonnés du Seigneur. Mais l'hybridation, d'amener l'Église à la théologie, au lieu de laisser le Saint-Esprit la conduire. Ils ont implanté des évêques et des surveillants généraux, alors que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur originel que Dieu a établi sur l'Église. Mais ils ont hybridé l'Église, comme ils l'ont fait avec le poulet, comme ils l'ont fait avec le mulet, comme ils l'ont fait avec tout le reste. Ils l'hybrident, ils en font quelque chose de différent. Ils croisent le monde, les choses du monde avec elle. Les jeux de basketball, et les soupers où l'on sert de la soupe, et les parties de loto, et toutes sortes de choses du monde. C'est vrai que c'est plus beau, c'est un bâtiment plus grand, une classe de gens aux manières raffinées. Leurs chants sont peut-être plus harmonieux, quant aux notes et tout, que ceux des pentecôtistes à l'ancienne mode, avec le tambourin et la guitare. Mais la semence n'y est pas. Ça ne donne pas un son clair. Ils trouvent toutes les explications possibles pour déprécier cela. Ceci est mieux que ce qu'il y avait là. C'est ce qu'ils essayent de faire dans le cas du maïs hybride. Il est meilleur que le maïs d'autrefois. Il n'était pas meilleur. La vie qui était en lui n'était pas meilleure. Il se peut que l'apparence extérieure ait été meilleure. Mais la vie n'était pas bonne. Et c'est de la vie que nous parlons. La vie n'est pas bonne quand il y a eu hybridation. Dieu veut que les choses restent comme il les a créées au commencement. Donc, l'Église a été hybridée. Et maintenant, on en est au point où l'Église ressemble plus à un club qu'à une bénédiction de la Pentecôte. Les érudits sont plus éducateurs que prédicateurs. Ils s'intéressent plus à acquérir un grand savoir. Notre pasteur a un doctorat ou quelque chose comme ça en théologie et ils ne peuvent pas se reproduire à leur tour. Quelle qu'en soit la beauté, ils ne peuvent pas reprendre leur forme originelle. Comment le pourrait-on? Ils ne peuvent pas se reproduire par croisement. Essayez de croiser un méthodiste avec un baptiste et regardez ce que vous obtiendrez. Vous obtiendrez un renégat, pire que celui que vous aviez au départ. C'est vrai, vous ne pouvez pas. Vous obtiendrez un nain, c'est vrai. Plantez du maïs hybride, il va pousser jusqu'à environ cette hauteur-là, puis il va jaunir. Il n'y a pas de vie en lui, c'est pour ça qu'il ne peut pas produire. Voilà ce qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui. Elle n'a pas de vie en elle. Elle a beaucoup de tape à l'œil. Et ce qu'ils appellent une meilleure classe de gens, des grains plus gros, des bâtiments plus beaux, des prédicateurs plus instruits. Mais il n'y a pas de vie à l'intérieur pour reproduire des enfants nés de nouveau. Ça ne peut pas se reproduire à son tour, alors que le grain, au départ, avait été planté. Ensuite, ils sont venus et ils ont hybridé ça. Et puis, tout à coup, ça ne peut plus revenir au point de départ, plus jamais. Je demande à n'importe quel érudit de remonter le cours de l'histoire avec moi. Toute église qui a laissé de côté son fondement originel n'a jamais pu refaire surface. Quand Dieu a envoyé Luther, celui-ci a eu un réveil qui s'est répandu dans le monde. Mais il l'a organisé et il l'a hybridé avec le monde. C'était comme l'Église catholique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit une bande de renégats hybrides. Et il ne s'est jamais relevé et ne se relèvera jamais. Ensuite, John Wesley est venu avec un réveil qui a fait la même chose. Aussitôt que lui et Asbury et les vieux fondateurs sont morts, ils ont organisé ça. Ils ont formé l'église méthodiste wesleyenne. Et ils ne se sont jamais relevés et ne se relèveront jamais. L'église anglicane, qui a été fondée par Calvin, a fait la même chose. Quand ils ont eu un réveil, c'était bien. Frère Simpson, qui est originaire du Canada, il a ça dans sa poche en ce moment. L'église anglicane, voilà que maintenant les ministres et tous, ils s'adonnent à la boisson. Ils mélangent leur bière, leur gin et tout. À l'église même, ils y font des fêtes et ils boivent. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne pourra plus jamais retourner à sa forme originelle. Parce qu'elle est hybridée avec le monde. Elle est perdue. Bon, nous parlons des anglicans, des méthodistes et des baptistes. Mais les pentecôtistes sont pareils. Il y a quelques années, nous avions une église pentecôtiste pleine de feu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont hybridée. Ils en ont fait une dénomination. Et ils l'ont ramenée dans le monde. Maintenant, vous vous retrouvez avec quoi? C'est exactement comme ce que Dieu a fait dans le cas du mulet. Elle est dans le quartier de clochard du diable. Elle ne refera plus jamais surface. Elle est finie. Elle a formé une dénomination et elle s'est dégradée. Et maintenant, ils ont des églises plus belles. Oh, les pentecôtistes, dans le temps, ils se réunissaient dans une petite mission au coin d'une ruelle. On les traitait sans ménagement. Ils erraient à droite et à gauche. Une fois sur deux, on les jetait en prison pour avoir poussé des cris toute la nuit. Eh bien, maintenant, on aurait certainement du mal à en trouver un seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont croisé avec autre chose. Ils l'ont rendu semblable à l'église baptiste. Comme l'église baptiste était devenue semblable à l'église méthodiste. L'église méthodiste était devenue semblable à celle de Luther. Celle de Luther était devenue semblable à l'église catholique. Vous vous retrouvez avec quoi? Une bande d'ânes sauvages, hybrides. C'est vrai. Je ne connais rien qui soit plus ignorant qu'un mulet. Il n'éprouve aucun sentiment personnel. Il bourdonnera autour de vous jusqu'à l'heure même de sa mort pour essayer de vous tuer. Il ne connaît rien d'autre que « U » et « Dia ». Il n'éprouve aucun sentiment. Il ne sait pas qui était son papa, qui était sa maman, ni où il va, ni d'où il vient. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de gens. C'est à peu près pareil. Avez-vous déjà vu un mulet? Vous pouvez lui parler. Et il restera là, avec ses longues oreilles. Il regardera avec cette mine longue et en dressant les oreilles. C'est comme ça qu'agissent beaucoup de ces âmes. C'est vrai. Il reste là, il vous regarde et il braie. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine, le parler en langue et le Saint-Esprit, ça n'existe pas, ça. C'est vrai, une religion de mulet. C'est vrai, hybride. C'est tout ce qu'il sait. Il ne pourra jamais savoir autre chose. Laissez-le. Continuons à avancer avec Dieu. Hybride, un mulet, tout simplement. Il ne sait pas d'où il vient. Il n'a pas de pédigré. Il ne peut pas avoir de pédigré. Mais le cheval est différent. Oui, monsieur, prenez un cheval d'une bonne souche qui a un pédigré. Il est très doux et très gentil. Il aime aller là-bas, caracoler, vous savez. Puis il revient. Il appuie sa tête contre votre épaule. Il hennit doucement et il fait toutes sortes de choses. C'est un animal formidable. Il est fidèle. Il vous soutient. Pourquoi? Il sait. Il a des documents qui montrent qu'il est de race pure. Amen. Il est écrit sur ses documents qu'il est de race pure. Son sang est pur. C'est comme ça qu'un saint de Dieu naît de nouveau. Si vous lui dites, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, il criera, Amen. Pourquoi? Il est d'une lignée pure. Son expérience est écrite dans la Bible. Il est né du sang de Jésus-Christ. Et il est un chrétien d'une lignée pure. Gloire! Il n'y a pas eu de croisement avec quoi que ce soit. Il est authentique, gentil, doux. Vous pouvez lui enseigner quelque chose. Il essaie d'obéir. Vous pouvez l'emmener dans des concours et lui faire faire presque la même chose qu'un être humain. Il va s'incliner, caracoler, sauter. Vous n'avez jamais vu un mulet faire ça. Vous ne voyez pas de mulet dans des concours agir comme ça, parce qu'il n'en a pas la qualité au départ. C'est pour ça qu'un chrétien né de nouveau peut accepter la guérison divine. Un chrétien né de nouveau peut accepter le Saint-Esprit, parce qu'il y a quelque chose en lui, quelque chose au fond de lui qui le fait croire. L'Esprit de Dieu en lui, qui donne raison à la parole de Dieu, ce qui prouve qu'il est d'une lignée pure. Oui, mais les mulets n'agissent pas comme ça. Ils ne le peuvent pas. Il n'y a rien en eux qui leur permette de le faire. Maintenant, parlons de l'hybridation. Vous savez, Ève a été la mère de l'hybridation. Elle a hybridé la race humaine. Vous savez, après avoir fait cette vilaine chose, je sais qu'on enregistre, alors nous allons leur présenter ça comme pour les tout-petits, si c'est ce qu'ils veulent. Mais quand elle a eu cette aventure avec le serpent, qui n'était pas un serpent, ou pas un reptile, la Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. La science, là, ils essayent de trouver les ossements d'une créature entre le singe et l'homme. Et ils disent que c'est de là qu'est venue la race noire, et ainsi de suite. Comme ça, ils sont ignorants au possible. Le serpent était un homme. Le sang d'un animal n'est pas compatible avec le sang d'un être humain. Non, monsieur. Mais cette espèce-là était entre les deux, tellement semblable que là, il était compatible. Et Satan le savait. Un grand gaillard, un géant. On a trouvé des grands géants dans le pays après ça. N'est-ce pas étrange? J'aurais bien voulu que Joseph, l'écrivain, pense à ça. D'où est-ce qu'ils sont venus, ces géants? De la semence du serpent. La Bible dit qu'il ferait que la semence du serpent, la semence du serpent, le serpent a eu une semence, et la semence de la femme. Mais bon, vaut mieux les laisser. Ils n'y croient pas, alors nous les prenons comme ça, comme les tout-petits. Mais quand elle a fait ça, elle a tout contaminé. Maintenant, de grâce, n'allez pas jusque-là de croire cette chose ridicule, un pommier. Comme je l'ai souvent dit, si le fait de manger des pommes a fait prendre conscience aux femmes qu'elles étaient nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau, parce qu'il est temps de le faire. Je ne dis pas ça pour être impoli, mais je le dis pour que ce point-là soit bien compris, que c'est la vérité. Il ne s'agissait pas de pommes. Ne donnons pas dans le ridicule à ce point-là. Il ne s'agissait pas d'un pommier. Mais ramenons ça à un autre arbre pour faire ressortir ça. Et on arrivait à l'objectif de notre sujet. Ramenons ça à un arbre de la foi. Qu'Ève aurait pris de l'arbre défendu, celui de l'incrédulité. Alors nous pourrons faire ressortir notre sujet.
Faith. She disbelieved God's word.
Il s'agissait de foi. Elle a été incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Dieu avait dit que telle et telle chose allait arriver. Elle aurait dû laisser ça tel quel. Elle aurait dû y croire tel que Dieu l'avait dit. Mais non, Satan s'est présenté là avec sa théologie. Elle l'a croisé avec ça. Et on a donné à Adam. Et ce qui en est résulté, c'est une foi hybride. C'est ça que l'Église a aujourd'hui, la soi-disant Église. Une foi hybride. Elle est croisée avec des craintes, avec des doutes, de l'agitation. Si c'était une foi authentique, elle serait inébranlable. Quand Dieu dit quelque chose, ce serait comme ça. Mais voyez-vous, elle l'a croisée avec ça. Elle a pris ce que Dieu avait dit et ce que Satan avait dit. Elle a baratté ça ensemble et elle a dit, « Voilà, c'est ça. » C'est comme ça que beaucoup de gens agissent aujourd'hui. Voyez-vous, ils prennent ce que la Bible dit et ce que l'homme dit, ce qui produit une foi hybride. À ce moment-là, ils ramènent tout ça à « Oh, avec ça, on a une très belle église. » C'est sûr, mais il n'y a pas de vie dedans. Elle est morte, une foi hybride. Oh, je crois vraiment que Dieu l'a été, oui, mais aujourd'hui, là, il n'est plus un guérisseur. Ça, c'est une foi hybride. Je crois qu'il a donné le Saint-Esprit aux pentecôtistes là-bas, le jour de la Pentecôte. Mais ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Une foi hybride, condamnée par Dieu. Hybride, qui ne vaut rien. Tenez-vous loin de ça. Elle est mauvaise. Elle fait entrer des doutes. Peut-être que j'y irai et que je serai guéri. Peut-être que le Seigneur va me guérir. Ça, c'est une foi hybride. Ça ne vaut rien. C'est une foi d'Église. Nous voulons la foi de Dieu. Dieu a dit quelque chose et c'est la vérité. Tenez-vous-en à ça. Amen. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites avec un burin de fer. Tenez-vous-en à ce que Dieu a dit. C'est la vérité. Une foi hybride qui lira Hébreux 13, qui dira « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Hébreux. Ensuite, la foi hybride intervient. Eh bien, dans un sens, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il n'est pas, il ne peut pas guérir aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans son programme. Mais la foi authentique dira, il est le même. Elle n'est pas hybride. Elle n'est pas liée à une église bourrée de théologie d'hommes. Ce n'est pas une religion de mulets. La parole de l'homme croisée avec la parole de Dieu, comme la vigne pervertie. Jésus a dit, il n'en était pas ainsi au commencement, et il n'en est pas ainsi au commencement. Dieu voulait que chaque semence produise selon son espèce, et quand on hybride quoi que ce soit, on détruit le programme de Dieu. Prenez une fleur, la fleur originelle, la violette est bleue ou blanche. Laissez-la tranquille, elle va de nouveau virer au blanc. Il faut continuer à l'hybrider tout le temps. Dieu crée des choses qui sont différentes. Il les aime comme ça, différentes. Et l'hybridation, c'est tellement dangereux et tellement condamnable que ça détruit le plan de Dieu. Ça détruit la race humaine. Dieu a même dit dans le Deutéronome qu'il ne serait même pas permis à un enfant bâtard d'entrer dans la génération, dans l'assemblée de l'Éternel, pendant 10 générations. Voilà combien l'adultère est mauvais. 10 générations, 10 fois 40, 400 ans, avant qu'un enfant hybride, une femme qui est mariée à un homme, ou un homme qui est marié à une femme, et qui outrepasse les limites des liens sacrés du mariage, et mette au monde un enfant illégitime, ces générations-là n'entreront pas dans le royaume de l'Éternel, avant 10 générations. Deutéronome 30, 23, 2. Bien, ils n'y entreront pas, ni un enfant illégitime, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses arrière-petits-enfants. Ils auront beau essayer, comme Ésaü, pleurer pour y trouver une place. Il faut 10 générations. Une génération, c'est 40 ans. Le voyez-vous que ce monde condamnable, corrompu, est prêt pour le jugement? Si mauvais, des croisements avec ce que Dieu a uni. Une femme qui est infidèle à son mari, un mari qui est infidèle à sa femme, et mettre au monde un enfant hybride. Oh, une femme dira, « Oh, il est beau, n'est-ce pas? Un garçon grand, gros et de bonne taille. » Peut-être qu'Ève avait pensé la même chose. Elle a mis au monde un enfant hybride. Cet enfant hybride, c'était Caïn. Et c'est de Caïn que sont venus les géants. C'est ça que Dieu a toujours maudit. Hybride. Tenez-vous loin de ça. La religion hybride. Ne croisez rien avec ça. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Pourquoi a-t-il dit comme un grain de moutarde? Le chou frisé croisé avec l'épinard, ça produit le colza. Mais la moutarde ne se croise avec rien du tout. La moutarde authentique, on ne peut pas hybrider ça. C'est de la moutarde. Les hommes qui sont nés de l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Ils ne se croisent pas avec le monde. Ils ne sont pas hybrides. Ils s'en tiennent à Dieu. Ils s'en tiennent à son programme. Ils s'en tiennent à son esprit. Ils ne veulent rien de ce qui est hybride. Ils ne s'occupent pas de ce que les autres églises peuvent paraître grandes et raffinées, de ce que l'assemblée peut paraître grande et raffinée, et de combien prestigieuses et grandes sont les réunions qu'ils ont. Ça ne les impressionne pas du tout. J'ai toujours aimé ce chant. Seigneur, enseigne-moi la patience. Pendant que les cœurs sont enflammés, pendant qu'ils construisent de grands édifices et ont des choses grandioses, Seigneur, enseigne-moi la patience pendant que les cœurs sont enflammés. Fais que je m'humilie et que j'invoque ton nom, que je ne m'appuie pas sur ce que les autres font, mais que plutôt je m'attende vraiment à toi. Car ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser, marcheront sans s'épuiser. Ô Seigneur, enseigne-moi la patience. Ne vous laissez pas séduire par des choses hybrides. Elles ne sont pas bonnes. Elles vont finalement arriver à leur terme. Elles ne peuvent pas retourner en arrière. Quand elles sont hybrides, elles sont finies. Elles ne peuvent jamais se reproduire à leur tour. Si elles le font, elles produisent des nains. Regardez le réveil de Wesley quand nous verrons l'âge de Philadelphie. Quel réveil ils ont eu? Regardez le réveil suivant. Ils ont continué à décliner jusqu'à présent. Regardez où ils en sont maintenant. Regardez les baptistes quand ils ont commencé avec John Smith. Et regardez où ils en sont, comme ils ont décliné. Regardez les pentecôtistes. Ils ont commencé en 1906. Ils se sont croisés avec le monde. Ils ont introduit les choses du monde et la doctrine du monde. À la place du Saint-Esprit, ils ont adopté une poignée de main. À la place de l'immersion, ils ont adopté l'aspersion. À la place du baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, ils ont adopté Père, Fils et Saint-Esprit, comme le monde. Ils ont adopté une poignée de main pour recevoir le Saint-Esprit, à la place du parler en langue et de la puissance de Dieu qui doit suivre. Ils ont mis la guérison divine dans le cabinet du médecin, au lieu de se mettre à genoux pour prier. Ils se sont hybridés et ils déclinent chaque année. Ils déclinent. Ces choses-là ne sont pas dans la Bible, ces doctrines-là. Mais pour être populaire, pour se faire une église, pour s'aligner, comme ils le sont maintenant sur la Confédération des Églises, pour s'y intégrer, pour se conformer aux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont amené leur propre déclin. Ils continuent à décliner. La première génération de pentecôtistes était pleine de feu. À la deuxième génération, ça a commencé à s'éteindre. Ça, c'est maintenant. Regardez bien ce que la troisième génération va produire. Elle ne va pas s'éteindre complètement avant que Jésus vienne. En effet, l'église de Laodicée était tiède, ni chaude, ni bouillante. Il lui restait encore un petit peu de bénédiction. Ils y étaient entremêlés. Un ici, un là, un là-bas. Ils y étaient entremêlés. Pas complètement froid, mais tiède. Dieu a dit, l'église, par son emprise, vous me faites mal au ventre. Alors que je vous avais donné le Saint-Esprit, vous l'avez croisé avec le monde et vous avez laissé les choses du monde s'infiltrer. Je vais carrément vomir de ma bouche toute l'organisation. Mais ne crains point, petit troupeau, qui a gardé les commandements de Dieu. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tenez-vous-en à la parole. Ce que la parole dit, tenez-vous-y. Ne la croisez surtout pas avec quoi que ce soit. Peu m'importe ce que l'évêque, ce que l'archevêque, ce que l'homme peut en dire. Tenez-vous-en strictement à la parole. Au jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Partout ailleurs dans la Bible, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. N'acceptez jamais de remplacer ça par Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous le faites, vous vous hybridez. Maintenant, montrez-moi un seul endroit dans la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. C'est une théologie faite de main d'homme qui a été injectée dans l'Église par hybridation et qui a donné la possibilité à une idole de s'introduire, comme ce qui est en train de se passer maintenant dans cette nation. Je peux vous prouver par l'histoire et par la Bible que toute personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été baptisée dans l'Église catholique. C'est selon leur propre catéchisme où ils disent « Y aura-t-il des protestants qui seront sauvés ?» Ils disent « Certains d'entre eux, ils acceptent une partie de notre doctrine. Ils prétendent croire la Bible. Ils disent, la Bible dit, repentez-vous et soyez baptisés. C'est ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte et tout, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que leur Bible enseigne. Mais ils acceptent notre doctrine, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est le catéchisme. Ce n'est pas une doctrine protestante, c'est une doctrine catholique. Mais nous, les pentecôtistes, nous avons croisé ça avec une théologie faite de main d'homme. Vous voyez vers quoi nous nous dirigeons? Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas envoyer de réveil. Il n'a rien sur quoi le bâtir. Alors, il prendra des individus, il le bâtira sur ces individus-là, et c'est eux qu'il fera connaître au monde, ceux qui s'en tiennent à la parole. L'aspersion, qui a déjà entendu parler de ça? Ils ont accepté le baptême d'eau par immersion, puis ils ont remplacé ça par une aspersion. Qui a déjà entendu parler de donner la main d'association pour faire entrer les gens dans l'Église ou d'une lettre? Quel non-sens! C'est hybride! Nous devons tous suivre le même parcours. Quelqu'un disait, je suis méthodiste parce que maman est méthodiste. Votre maman peut avoir été une chrétienne méthodiste, mais vous n'en êtes pas un pour autant. Elle peut avoir été une chrétienne baptiste, mais vous n'en êtes pas un pour autant. Comme j'ai souvent cité ce que David a dit, David Duplessis, qui disait que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'est pas un grand-papa. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que Dieu est un grand-papa. Alors pourquoi avez-vous cette idée extrême de la Trinité? Dieu le Père, un, Dieu le Fils, un autre, le Père, ensuite Dieu le Saint-Esprit. Ça fait de Dieu un grand-papa. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des fils et des filles. Pas des petits-enfants, des fils et des filles. Ils n'acceptent pas de petits-enfants. Chaque individu doit venir de la même manière que l'autre est venu. Vous devez être un fils ou une fille. Alors, vous voyez ce que l'hybridation a fait? Simplement dans l'Église. Nous étions tous condamnés à cause d'Ève, à cause de l'hybridation. C'est absolument vrai. Nous en sommes tous arrivés là, à cause d'Ève. C'est Ève qui a causé la chute de toute la race humaine. Elle et Adam sont un. Elle, ça a commencé par la femme. Ça finira par une femme. Un homme, en elle, appelé l'homme du péché, il pardonne les péchés sur terre. Ils prennent leur doctrine et la répandent chez les gens, et ceux-ci la boivent. Les peuples de la terre, les rois, dit la Bible, ont été enivrés du vin de ces fornications. Ces fornications, qu'est-ce que c'est? Son infidélité. Une femme qui commet des fornications est infidèle à son mari. Une église qui commet des fornications prêche quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Ce qui rend l'église hybride. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aussi donné naissance à des filles. Or, quelles sont les filles de l'Église catholique? D'où sont venues Luther et ainsi de suite, ces dénominations et ces organisations? Voyez-vous comment elles sont entrées? Mais la véritable Église de Dieu est tissée dans chacune d'elles. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et tout au long. La vraie, la véritable Église de Dieu qui a été acquise par le sang, comme ce cordon de fil cramoisi par lequel les espions avaient été descendus. Ils sont entremêlés là-dedans, mais leurs dénominations ne peuvent pas les sauver. Êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien, je suis baptiste, je suis méthodiste. Ça, pour Dieu, ça ne veut absolument rien dire. Vous êtes chrétien quand vous êtes né de nouveau. C'est elle qui a causé tout ça. Bien des fois, j'ai entendu des gens dire, dans ce cas-là, frère Branham, puisque c'est Adam et Ève qui ont fait ce qui est mal, qui ont hybridé la parole de Dieu, et que c'est à cause d'eux que nous nous sommes retrouvés dans cet état-là. Dieu serait injuste de me condamner. Je n'ai eu rien à voir là-dedans. Ce n'est pas du tout moi qui ai péché. C'est Adam qui a péché. La Bible dit que je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis venu au monde en disant des mensonges. Quelqu'un m'a donc représenté. Oh, voici une pensée. Vous allez peut-être trouver que c'est dur à avaler. Quelqu'un vous a représenté comme pécheur. Or, c'était celui qui avait hybridé la parole. Et aujourd'hui, si vous vous attendez à ce que l'Église pentecôtiste, méthodiste ou baptiste vous représente, ça c'est une parole hybride qui est condamnée. Vous êtes condamnés parce qu'Adam vous a condamnés. Adam et Ève, qui étaient un, ont accepté la forme hybride et ils ont condamné le monde. Alors vous dites, frère Branham, pourquoi est-ce que Dieu me tiendrait pour responsable? Parce qu'un seul homme m'a représenté et qu'ensuite je mourrai parce que cet homme-là a péché. Dans ce cas-là, je suis pécheur par représentation. C'est exact. Vous êtes pécheur par représentation. Vous n'avez jamais... Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Il ne vous tient pas pour responsable parce que vous mentez et que vous volez. Et à cause des choses que vous faites. Il ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Il vous tient pour responsable parce que vous ne faites rien pour vous en sortir. Il y a un moyen qui était prévu pour vous. Vous rejetez le moyen que Dieu a donné. C'est pour ça que Dieu vous condamne. Il y a un moyen d'échapper. L'hybridation. L'hybridation. Oh, que c'est terrible. L'hybridation. Ils hybrident les gens. New York, le grand melting pot. J'ai des centaines d'amis précieux parmi les gens de couleur, qui sont des chrétiens nés de nouveau. Mais au sujet de la ségrégation et des choses dont ils parlent, l'hybridation des gens. Dites-moi, quelle brave femme de couleur qui est cultivée et une bonne chrétienne voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme blanc? Non, monsieur, ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme de couleur? Dieu nous a fait tels que nous sommes. Restons tels que Dieu nous a fait. Je crois que c'est ça qui est bien. Quand il y a eu ce grand sujet de désaccord, il n'y a pas longtemps, là-bas, à Shreveport, ce vieux prédicateur de couleur s'est tenu là. Il a une place dans mon cœur. Il a dit, « Je n'ai jamais eu honte d'être un homme de couleur. » Il a dit, « Dieu m'a fait tel que je suis, et j'en suis fier. » Mais il a dit, « Aujourd'hui, j'ai honte à voir la façon dont vous agissez, à voir la façon dont les gens de ma propre race agissent. J'en ai honte. » Oh là là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, mes amis? Les hommes pensent tout savoir. Les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont, tels que Dieu les a faits. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent telles que Dieu les a faites. Si la violette, Dieu l'a faite, et qu'elle était blanche, qu'elle reste blanche. La fleur, qu'elle soit bleue, noire, brune ou quoi encore, laissez-la telle qu'elle est. Si le maïs a été cultivé d'une certaine façon, si c'est du maïs jaune, ne le croisez pas avec du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangez ça. Alors, il ne peut plus se reproduire à son tour. Si un mulet était, ou si un âne était un âne, une ânesse au départ, laissez-les comme ça. Ne les croisez pas avec des chevaux. Vous produirez un renégat. L'hybridation. Oh, quelle malédiction. Retournez là où Dieu a commencé. Retournons au commencement. Retournons là où Dieu nous a créés, tels que nous sommes censés être. Je dis ceci avec respect. Je dis ceci avec honneur. Je m'en vais en Afrique. Mais savez-vous quoi, mes précieux frères et sœurs de couleur? L'une des plus grandes erreurs que cette nation ait commise, elle l'a commise le 11 novembre de cette année. Celle-là a été sa grande erreur fatale. L'une des plus grandes erreurs que la race de couleur ait jamais commise, c'est là-bas en Louisiane et tout, quand ils ont voté pour Kennedy l'autre soir, qu'ils l'ont élu. En fait, ils ont craché sur le vêtement d'Abraham Lincoln, taché du sang du Parti républicain qui les avait libérés. Ils ont élu un catholique, et c'est Booth qui a abattu Lincoln. Il est mort pour les gens de cette race, pour les libérer et les faire sortir de l'esclavage. Et voilà qu'ils font volte-face et votent pour un démocrate et un catholique par-dessus le marché. Ils ont amené la plus grande disgrâce qu'ils aient jamais amenée, à cause de quoi? De l'homme blanc qui, avec son grand savoir, leur a fait un bon bourrage de crâne. C'est absolument vrai. J'en suis si heureux. Un bon nombre d'entre eux savent à quoi s'en tenir. C'est comme si je crachais sur Christ, qui m'a guéri et m'a sauvé du péché, et que je me retournais contre lui en faveur de quelque chose d'autre, que je lui tourne le dos et mon aille. Oh, ces croisements! Oh, comment le monde peut-il subsister encore longtemps? Ce n'est pas étonnant que la vision du Seigneur dit ici que, finalement, je l'ai vue alors qu'elle n'était plus qu'une masse fumante. Elle avait explosé. Nous nous dirigeons vers la sortie, mes amis. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Nous devons en arriver là, être confrontés à ça, l'hybridation. Vous dites, je ne suis pas responsable, puisque c'est Ève qui a fait ça. C'est Ève qui l'a fait, effectivement. Elle nous a représentés tous. Adam nous a représentés là-bas comme pécheurs. Et nous sommes effectivement des pécheurs. Il a représenté notre nature humaine déchue, nous écartant de la parole de Dieu en l'hybridant. Oh, je sais que Dieu l'a dit, mais sûrement que Dieu comprend que je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste. Dieu comprend ça. Dieu comprend une seule chose, et c'est le sang. C'est tout ce qu'il comprend. Il connaît le sang. Il ne sait pas faire de distinction sur la base de la couleur. Il ne sait pas faire de distinction sur la base de la race, que l'homme soit noir, bleu, blanc, brun, ou quelle que soit sa couleur. Dieu ne sait rien de ces choses-là. Ils sont ses fils et ses filles. Il les a faits pour qu'ils soient son jardin de fleurs. Il aime les regarder tels qu'ils sont. Laissez-les comme ça, tels qu'ils sont. C'est Ève qui a commencé cette vilaine chose quand elle s'est croisée là-bas avec cette autre espèce qui se rapprochait de l'homme, ce qui allait produire un croisement des semences. En effet, le serpent a une semence qui allait continuellement briser. Je vais ramener ça à l'aspect de la foi, à cause des chrétiens faibles qui ne comprennent pas. Alors, ramenons ça à la foi. Disons donc, par la foi, par l'hybridation de la foi, alors, comme vous le dites, frère Branham. Alors Ève a introduit sa théologie, elle et Adam, elles ont essayé de plaider l'un l'autre, de rejeter la responsabilité, de faire retomber la faute sur celui qui est en dessous, comme on dit dans l'armée. La femme que tu m'as donnée, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Il ne lui a jamais donné une pomme pour la séduire. Voyez, n'importe qui devrait par simple raisonnement savoir ça. Mais le serpent m'a séduite a fait quelque chose de déshonorant. Dieu a maudit cette chose, si bien qu'on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à celui de l'homme. Ils n'en trouveront jamais. Ils sont simplement insensés de creuser partout. C'est tout. Le secret de Dieu est en lui. C'est vrai. Et le pays était plein de géants. Et Joseph, le grand historien, a dit que, pouvez-vous imaginer, un historien de la trompe de Joseph qui dit, « Les fils de Dieu ont vu les filles des hommes et sont entrés, eux qui étaient des anges, dans des chairs humaines ?» Un historien ? S'il en est ainsi, alors Satan est un créateur. Dans ce cas-là, où en sommes-nous ? Voyez, il y a un seul créateur, c'est Dieu. Tout ce que Satan fait, c'est de pervertir ce que Dieu a créé. Et l'injustice, ce n'est que la justice pervertie. Il est légal pour un homme et une femme de se marier, mais pas de courir ailleurs. Voyez, c'est de la perversion. La mort, c'est une vie pervertie. Et une église pervertie provient d'une église originelle. Donc, nous sommes tous condamnés par des êtres humains par représentation. Adam nous a représentés devant Dieu comme pécheurs, incrédules à l'égard de sa parole. Nous sommes perpétués sur cette base, des incrédules à l'égard de sa parole. Oh, Dieu l'a dit, mais je sais que Dieu est un Dieu bon. Il ne fera pas ça. J'entends ça tellement souvent. Dieu est un Dieu bon, mais Dieu est un Dieu de jugement. Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de colère. Nous comparaîtrons devant lui quand il sera en colère. La Bible dit, et sa présence même sera un feu dévorant. C'est vrai. Il ne faut pas essayer de juger Dieu d'après nos propres sentiments. Nous devons juger Dieu d'après ses paroles, ce qu'il a dit. Ne vous laissez pas entraîner dans n'importe quelle galère. Voici une église glorieuse. Elle a résisté contre vents et marées. Et ceci ou cela, revenez à ce que Dieu a dit. Quand je comparaîtrai devant lui, je veux être déclaré innocent d'avoir jamais cherché à ajouter une seule chose à cette parole ou à en retrancher une seule chose. Je veux vraiment la croire exactement telle qu'elle. Enseigner aux gens à s'y aligner parfaitement. La Bible dit ceci, ce que n'importe qui d'autre en dit, je n'y peux rien, je dois m'en tenir strictement à cela. En ce qui concerne le lavage des pieds, ils disent, « Ah, les frères pentecôtistes, frères, oh frère Branham, c'est, oh, dans le temps nous pratiquions ça, pratiquons-le encore aujourd'hui, si nous le pratiquions à un moment donné. Jésus a fait le lavage des pieds. » Oh, ils disent, ce n'est pas hygiénique, les gens souffrent du pied d'athlète. Peu m'importe de quoi ils souffrent, peut-être que les gens de cette époque-là souffraient de la même chose. Oui, oui, c'est vrai, Jean. Dieu est un guérisseur. Voyez, ils cherchent une échappatoire. Par exemple, ils disent, « Oh, je ne voudrais pas boire dans un verre où quelqu'un d'autre a bu, à moins qu'il ait été ébouillanté. » Oh là là, mon frère et ma sœur sont mon frère et ma sœur. Amen. Si quelque chose ne va pas, Dieu me protège. J'ai confiance en lui. Retournons à la parole. Peu m'importe quelle est sa couleur, ce qu'il est ou à quelle église il appartient. S'il est mon frère, il est mon frère. j'observerai les commandements de Dieu. C'est la raison pour laquelle, mes amis, pour ce qui est du baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, je dois m'en tenir à ça. Oh, ça me prive de beaucoup de grands, de sauver des âmes là-bas. C'est sûr que oui, rien que ce point-là, à cause de la croyance extrême dans la Trinité. Bien sûr que je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme des fonctions de Dieu, non pas comme trois dieux, mais comme trois fonctions du même Dieu. Il est effectivement Père, Fils et Saint-Esprit, mais ça, ce sont les titres de sa fonction. Il est Dieu le Père, bien sûr qu'il l'était au commencement. Il est Dieu le Fils, qui était fait chair sur la terre. Il est Dieu le Saint-Esprit, qui est en moi, mais c'est le même Dieu depuis le début. Trois fonctions. Il fut un temps où on ne pouvait pas le toucher, ni rien. Puis il est descendu, il s'est fait chair, et il a pris mes péchés, il a porté mes péchés. Alors, comme il m'a sanctifié par son propre sang, alors le Saint-Esprit a pu entrer. Et lui et moi, nous pouvons être en communion, comme nous l'étions en Éden. Nous nous aimons. Il est mon Père, je suis son Fils. Pas trois dieux, le même Dieu qui m'a créé, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est le Dieu qui est en moi. Son nom était Jésus-Christ quand il était sur terre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. Maintenant, si ça blesse mes amis, je n'y peux rien. J'aime mieux blesser mon ami que de blesser mon père. Voyez, il est mon parent, mon père, Dieu. C'est ce que dit sa parole. Oh Dieu, ne me laisse jamais hybrider quoi que ce soit. Dire, les jours des miracles sont passés. Oh, Jésus ne fait plus la même chose. Oh, c'est peut-être de la télépathie. C'est peut-être de la lecture de pensée. Je ne crois pas que nous avons des prophètes de nos jours. La Bible a dit que nous en aurions. Je le crois. Nous attendons un oint, quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui est venu comme précurseur de la première venue de Christ, qui viendra comme précurseur de la seconde venue de Christ, comme lui l'avait fait. Il l'a promis. Rétablir la foi des gens, les ramener à Dieu. Qu'est-ce que Jean devait faire? Rétablir la foi. La foi qui avait existé jadis, la vraie semence qui était dans le jardin d'Éden. Prendre la parole de Dieu qui avait été hybridée à cause des manières des gens d'Église. Jean vient la rétablir. Alléluia! Ébranler la nation avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ça, c'est Jean, la mission de Jean. Un oint. Remarquez. Aussi, vous dites, « Eh bien alors, pourquoi est-ce que je suis condamné à cause de ça ? Puisque c'est Ève et Adam qui l'ont fait. Ils m'ont représenté comme pécheur. Je n'y peux rien. » Oui, mais mon frère, un jour, de nouveau, quelqu'un est venu de la gloire. Oh, c'est de lui que je veux parler maintenant, pendant environ 2 minutes. Quelqu'un est venu de la gloire et est devenu terrestre. Quelqu'un est venu et a revêtu une chair semblable à celle du péché. Il est venu nous représenter, lui aussi. Et Satan a essayé de l'hybrider. Oh, il a essayé. De tous côtés, Satan était là pour l'hybrider. Mais il n'a jamais fait de croisement. Il a pris la croix et il est monté. Amen. Lui, Satan, n'a pas pu l'hybrider. Non, non. Il était un Adam différent. Il était venu de la gloire pour nous représenter. Qu'est-ce? Eh bien, Adam a dit, « Si ma femme le dit, je pense que ça va. » Eh bien, elle a dit qu'elle avait eu une révélation et que c'est censé être comme ceci. Je sais que Dieu, lui, il dit que c'est comme ceci, mais ma femme a dit. C'est pareil aujourd'hui pour le membre d'une église locale. Oh, je sais que la Bible dit cela, mais mon église dit telle et telle chose. Oh, pauvre hypocrite misérable que tu es! Tu ne vois donc pas? Dieu a dit que ma parole soit reconnue pour vraie et toute parole d'homme pour un mensonge. Prenez Dieu aux mains. C'est la parole de Dieu. M'importe ce que ma femme a dit, ce que mon église a dit, ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Alors, quand on voit l'inspirateur de sa femme, d'Ève, quand il est venu rencontrer Jésus, il a dit, « Oh oui, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges à ton sujet, qu'ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Oui, il a dit, et il est aussi écrit. Oh, il n'a pas pu l'hybrider. Il était Dieu fait chair. Il était mon sauveur et mon Dieu. Il n'a pas pu l'hybrider. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé la croix et il est mort sur la croix pour moi et pour vous et pour le monde afin de ramener à Dieu quoi? Des fils et des filles. De nouveau, comme dans le jardin d'Éden, avant qu'ils aient été hybridés par la théologie. Oh Dieu, si seulement les gens pouvaient voir ça, Si seulement je pouvais enfoncer ça dans le crâne des gens. Jésus est mort afin de débarrasser les gens de cette camelote hybride d'église, afin de détourner votre pensée et votre foi de ce que l'homme a dit, les ramener à ce que Dieu a dit. Pas une foi hybride. Eh bien, peut-être que les jours des miracles sont passés, peut-être que ça ne se produira pas. Oh frère, Dieu l'a dit que ça se produit, alors ça règle la question. C'est pour toujours. Dieu l'a dit. Jésus est mort afin de se reproduire. Oh, alléluia! Il n'y a que le sang qui peut faire ça. C'est seulement grâce aux composants chimiques du sang de Jésus-Christ que peut être engendrée de nouveau une personne qui ne déviera pas d'une seule parole de ce que Dieu a dit. Ève a montré sa faiblesse, l'Église. Elle a montré ce qu'elle avait fait. Elle a dit, « Eh bien, peut-être que tu as raison. Peut-être que Dieu ne m'en tiendra pas pour responsable parce que, vraiment, je ne... Eh bien, si, simplement je... Oh, qu'est-ce que ça peut bien changer, ça, pourvu que je sois baptisé ?» Voyez, qu'est-ce que ça peut bien changer, ça, pourvu que je... Oh, espèce de... Non, ça montre que vous avez besoin d'une autre naissance. Ça montre que quelque chose doit revenir en vous pour vous amener à avoir foi en ce que Dieu a dit. Il ne disparaîtra pas un seul iota, ni le moindre trait de l'être de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle soit tout accomplie, que toute parole d'homme soit reconnue pour un mensonge et que la sienne soit reconnue pour vraie. Christ est venu afin de se reproduire par le Saint-Esprit. Oh, frère, alors que nous sommes assis ensemble maintenant, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, le Saint-Esprit souffle sur nous, tel que nous sommes maintenant. Il se reproduit, il élimine les âneries de la théologie, il élimine les âneries du monde, les doctrines faites de main d'homme, ayant des apparences de piété, reniant ce qui en fait la force, engendrer, ramener une foi en Dieu sans mélange. Jésus a dit, Satan a dit, « Oh, je sais que c'est écrit, mais tu sais, il est dit que tu... » Jésus a dit, « Et il est aussi écrit. » Il est aussi écrit. Oui, il est écrit qu'il fera ceci, et tu changeras. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux accomplir un miracle ici devant moi, et changer ces pierres en pain. Fais-moi voir ça. Il aurait écouté Satan. Voyez-vous la perspicacité de Dieu, là, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Vous voyez, comme il s'en est tenu strictement à la parole, il a vaincu Satan chaque fois, strictement par la parole. Il s'en est tenu à la parole. Et s'il est venu pour nous engendrer, nous ramener à l'état de fils et de filles de Dieu, tels que nous étions au commencement, comment pouvons-nous nous détourner de la parole, alors? Comment donc pouvons-nous arriver à quoi que ce soit tant que nous ne serons pas revenus à la parole? Oh, j'espère que cette bande qui ira chez les gens, et vous qui m'écoutez partout dans le monde, que vous prendrez conscience de ça. Nous devons, si nous appartenons à Christ, nous sommes nés de Christ. Nous devons revenir à la parole. Nous ne pourrons jamais y faire entrer les gens par une instruction. Nous aurons beau construire de grandes églises, mes frères, tout autour du monde. Nous aurons beau construire et avoir de grands programmes pédagogiques. Ça, nous l'avons essayé. Ça produit des renégats. D'où viennent la plupart des criminels? Non pas des rangs des illettrés, mais des gens instruits, de la lignée et de la race de la haute bourgeoisie, de l'instruction. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un agent du FBI, et alors qu'il me montrait quelque chose au mur, il m'a dit, « J'ai aimé votre prédication. » Il a dit, « Vous avez dit que ce n'est pas la classe des pauvres qui produit. Le pauvre, qui ne connaît pas grand-chose, ces gars-là, ils ont un peu peur de s'aventurer là-dedans. Mais c'est cette espèce-là, des gars qui se croient plus malins que l'autre escroc. Ils voient où ces derniers ont fait leur erreur. Elle risque le coup. Il s'est tout de suite référé au pénitencier. Il m'a indiqué tous les cas de délinquance juvénile qu'il y a eu d'un bout à l'autre du pays. Et au moins 80% d'entre eux provenaient des quartiers de l'aristocratie. Des gens intelligents, habiles. Regardez au commencement là, pour montrer que ce sont les fils de Caïn. Regardez les gens du côté de Caïn. Qui étaient les gens du côté de Caïn? Suivez cette lignée-là, ceux qui se sont succédés du côté de Caïn. Qui étaient-ils? C'étaient des gens astucieux, des savants, des docteurs, des gens de la haute, des gens religieux, de la haute. Ils ont inventé la technique pour tremper différents métaux, pour bâtir de beaux édifices. C'étaient des savants. Les autres, ils sont venus de quelle lignée? Des paysans, des cultivateurs, des bergers, et ainsi de suite. Vous voyez ça? Regardez aujourd'hui, ces gens enflés d'orgueil, par des croisements, ils ont été introduits dans les églises, si bien que le pauvre illettré qui aime vraiment le Seigneur, l'église ne veut pas le laisser entrer chez elle. Le prédicateur dira peut-être quelque chose, et lui, il dira « Amen », et le mettront à la porte. Ils ne veulent pas de lui dans leur assemblée, s'il n'est pas tiré à quatre épingles, qu'il n'est pas habillé comme les Jones ou quelqu'un comme ça. Vous voyez, ils ne veulent pas d'eux là-bas, s'ils n'ont pas une belle voiture, s'ils viennent à l'église avec une vieille guimbarde. Frère, frère, oh, vous ne voyez donc pas? Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent même pas accepter les gens de couleur dans leurs églises. Oh Dieu, aie pitié de tels hypocrites. Oh Dieu, c'est ce que je veux toujours. Tant que j'aurai une église, les portes seront ouvertes à celui qui veut. Même si vous venez dans une brouette, ça m'est égal. Venez, venez. Même si vous portez votre salopette, ça m'est égal. Je vais vous dire une chose. Mettez-vous en règle avec Dieu. Alors une salopette pourra s'asseoir à côté d'un smoking. Ils se donneront l'accolade et ils s'appelleront frères. Certainement qu'ils le feront. Certainement qu'ils le feront. Une robe de calico pourra s'asseoir à côté d'une robe de soie, lui donner l'accolade et lui dire « Sœur, oui, ça produit un effet sur vous. Ça engendre, ça ramène ces choses en vous. » Et qu'est-ce que nous faisons maintenant, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Nous n'optons pas pour notre théologie, mais nous laissons le Saint-Esprit nous engendrer, nous ramener à l'état de fils et de fille de Dieu. Que signifie le mot « circoncire » Étienne a dit, c'est exact, couper la chair superflue. Voyez, couper ce qui est superflu, la partie qui n'est pas utile, la circoncision, être coupé. Or, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le mâle qui pouvait être circoncis. La chair superflue était coupée. Maintenant, ce que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours, c'est qu'il retranche le superflu. Il retranche la théologie du monde. Il retranche les doctrines faites de main d'homme. Il retranche toute incrédulité. Il retranche tout. Étienne a dit, « Oh, incirconcis de cœur et d'oreille, pourquoi résistez-vous toujours au Saint-Esprit? Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. » Voilà bien ce qu'il en est, mon ami. Vous devez vous débarrasser de ça, de dire, « Eh bien, l'autre soir là, j'ai entendu un discours. Il disait, ces guérisseurs divins, vous faites mieux de les avoir à l'œil. » Il ne s'agit pas des guérisseurs divins. Moi aussi, je les aurais à l'œil. Mais je garde les yeux sur la parole de Dieu, sur ce qu'elle dit. Je prends la parole. C'est la parole qui le dit. Voyez? Ah, il faut les avoir à l'œil, les gens qui croient au parler en langue, parce que c'était pour une autre époque. Ce ne sont que des démons. Qu'est-ce que la parole dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru jusqu'à la fin du monde. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La dernière commission que Jésus a donnée à son Église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire aujourd'hui? D'enlever toute cette incrédulité. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il essaie de ramener les gens à la parole sans mélange, à ce que Dieu a dit, comme c'était en Éden, avant qu'on y ajoute la théologie. Ramenez cela tel que c'était en Éden, quand l'homme marchait avec Dieu et qu'il disait, si un arbre n'avait pas l'air d'être bien placé ici, il disait, « Déracine-toi et plante-toi ici. » Si le vent soufflait, il disait, « Silence, tais-toi. » Et celui-ci s'arrêtait. Il était ce qu'il était. Il dominait sur tous les animaux. Tout ce qui était sur la terre lui appartenait. Il était le Dieu de la terre. Il avait en lui le pouvoir de dominer. Quelqu'un est descendu du ciel au milieu de toute cette contamination et il a prouvé que c'était ça le plan de Dieu, car il était le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour que nous puissions revenir, être purifiés grâce à la justice de son sang. Et ce matin, c'est lui qui nous représente. Alléluia. Maintenant, vous qui dites qu'il n'est pas juste que vous soyez représentés par Adam comme pécheur, qu'en est-il si par représentation nous recevons aussi le salut? Vous ne pouvez pas plus vous sauver vous-même que vous pourriez vous hisser jusqu'à la lune à la force du poignet. Vous ne pouvez pas plus, vous êtes né dans le péché, vous êtes un renégat au départ. C'est ce que nous sommes tous, et nous ne pouvions pas nous tirer d'affaire tout seuls. Alors, comment arriverons-nous jamais à être sauvés? Quelqu'un est venu nous représenter. Jésus, c'est lui qui est venu nous représenter devant Dieu, comme fils et fille de Dieu. Et maintenant, il a envoyé son Saint-Esprit. Il plane maintenant au-dessus de ce lieu. Il essaye de nous ramener à la naissance, pour mourir à nous-mêmes et naître de nouveau, pour être des fils et des filles de Dieu, prendre Dieu au mot. Croire la parole de Dieu. Alors, si nous sommes condamnés par représentation, nous sommes aussi. Qu'est-ce qui fait que nous sommes condamnés? C'est à cause de l'hybridation, du fait d'avoir croisé le monde avec les choses de Dieu. C'est à cause de ça. Maintenant, comment arriverons-nous jamais à nous débarrasser de cette hybridation? Détournez-vous de ces choses hybrides. Revenez à ceci. La parole de Dieu est la vérité. Toute parole d'homme est un mensonge. Ce que Dieu a dit est vrai. Tenez-vous-en strictement à cela. C'est ce qui vous régénère, vous ramène tout droit à ceci. Un moyen a été prévu. Quelqu'un se tient là, au trône de Dieu ce matin, pour vous représenter. Votre père et votre mère vous ont représenté, comme Adam et Ève. C'est vrai, quand vous êtes nés dans ce monde, les liens sacrés du mariage, c'est ce qui a été institué par Dieu pour mettre des enfants au monde. Maintenant, vous vous retrouvez exactement au même point que vous l'étiez dans le jardin d'Éden, comme Adam et Ève, vous, les fils et les filles de Dieu. Vous vous retrouvez exactement là, devant deux arbres. L'un d'eux, c'était l'arbre de la connaissance, et l'autre, c'était l'arbre de la vie. Maintenant, voulez-vous suivre la voie de la science, celle de l'hybridation? Regardez où ça vous mène. Qu'est-ce? Dans quel genre de pétrin l'homme s'est-il mis avec cette hybridation? Dans quel genre de pétrin s'est-il mis avec sa propre connaissance? Au lieu d'être tout simplement un enfant humble et qui compte sur Dieu, il essaie de se servir de la science pour fissionner un atome. Regardez dans quel pétrin il est maintenant même. Dieu le laisse simplement se détruire lui-même. C'est tout. L'homme s'est détruit lui-même au commencement. Il s'est séparé de Dieu, de la communion, par l'arbre de la connaissance. Il a laissé de côté l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Éloignez-vous de cet arbre hybride. Venez par ici, au fruit originel qui a la vie en lui. Nourrissez-vous de lui. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. » N'étant pas mêlés avec de la foi en eux, voyez-vous, ont mangé la manne dans le désert, et ils sont tous morts. Mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Celui qui mange de ce pain a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Il ne périra jamais. Il a la vie éternelle. Revenons à cet arbre ce matin. Éloignons-nous de ce que l'homme dit. Éloignons-nous de ce que les églises disent. Revenons prendre la Bible et croyons la Bible. Il est trop tard maintenant pour nous mettre à nous disputer. Voyez, il n'y aura plus jamais d'autres grandes organisations qui seront suscitées. Je peux vous le prouver là, pendant la période des âges de l'église. Des organisations, il n'y en aura plus une seule qui sera suscitée. L'âge de l'église de Laodicée, ce sera simplement les pentecôtistes qui se formeront eux-mêmes en dénomination, continuellement, continuellement, continuellement comme ça. Mais il n'y aura plus jamais de grands réveils qui seront amorcés, lancés dans ce pays. Le tout petit nombre qui restera de l'église, c'est lui qui attirera ceux qui sont destinés à entrer. En effet, c'est la Bible dit que les âges de l'église se terminent dans la tiédeur. C'est vrai. Alors ça doit arriver comme ça. Maintenant, je m'adresse à tous. Éloignons-nous de ces croisements. Revenons au vrai fruit originel. Retournons au point où Dieu nous a créés, comme fils et filles de Dieu, pour nous reposer sur ce que Dieu a dit. Et n'acceptez pas la parole de la femme, l'hybridation. Voyez-vous comme le naturel et le spirituel sont présentés sous forme de type? Voyez-vous ma vision, qui a été écrite ici, ce qu'il en était, qu'on accorderait le droit de faute aux femmes? Qu'est-ce qui a détruit cette nation? Maintenant, écoutez, il ne s'agit pas de vous, les chrétiennes. Les femmes, c'est la colonne vertébrale de toute nation. Que la maternité se détériore, on détériore la nation dès le départ. C'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. Les Américaines, c'est quoi au juste? Avant, on allait à Paris chercher les modes de là-bas. Maintenant, c'est Paris qui vient chercher la mode d'ici, qui convient à leur façon de vivre vulgaire, impure. Ils viennent chez nous chercher les modes d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a déshabillé nos femmes. Elles enlèvent leurs vêtements. Chaque année, elles en enlèvent un peu plus. Elles se coupent les cheveux. Et ça, Dieu dit que c'est mal. Elles portent ces espèces de petits vêtements dont la Bible a dit, c'est une abomination devant Dieu pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Et maintenant, on n'arrive plus à distinguer les hommes des femmes. Elles fument la cigarette. Hybride, c'est le mot juste. Hybrides. Elles ne savent même pas si elles sont des hommes ou si elles sont des femmes. C'est juste. C'est à peine si on peut dire à quel sexe elles appartiennent, en les regardant et en les écoutant. C'est vrai, mon ami. Je ne dis pas ça de vous, les chrétiennes. Ma voix va partout, dans beaucoup de nations. Mais c'est une hybridation. Cette Amérique est condamnée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Conformément à la vision, elle a élu la personne qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas combien de temps elle mettra à arriver à sa fin, mais ça arrivera un jour. Ainsi dit le Seigneur, Oui, ça arrivera. Elle s'achemine vers sa chute. Maintenant même, elle ne remontera jamais. Elle est finie. C'est vrai, elle est finie. Depuis 1956, quand elle a condamné Dieu et s'est détournée de lui aux grandes heures du réveil. Maintenant, je pense que c'est le moment de terminer là, de former la ligne de prière pour les malades. Maintenant, croyez-vous que le diable a hybridé les gens, les nations? Le croyez-vous? Bien sûr que c'est ça. Il a hybridé les églises au point que nous sommes devenus des dogmes faits de mains d'hommes au lieu d'être des serviteurs qui ont la crainte de Christ. Voyez-vous pourquoi je condamne, je secoue, je tape de toutes mes forces sur ce qui est mal? Comment pourrais-je faire autrement? Alors qu'ici la parole le dit et que le Saint-Esprit dit, vas-y, fonce. Je dis, Seigneur, je prêche. Les gens continuent à s'habiller de la même façon. Ils continuent à agir exactement comme ils l'ont toujours fait. Prêche-le quand même. Continue à avancer, c'est tout. Ta voix est enregistrée sur bande. Au jour du jugement, ils n'auront aucune excuse. Alors, parce que vous l'avez entendu. Voyez, c'est vrai. Vous l'avez entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce que l'Église dit. Ça ne sonne pas juste, n'est-ce pas? De ce qu'on entend la parole de Dieu qui vous ramène à la foi en Dieu. Quand vous viendrez ce matin, nous voulons prier. Et nous voulons prier que Dieu vous donne de rejeter toutes ces choses. Peut-être que ce petit message vous débarrassera de cette hybridation et vous ramènera pour que vous soyez un serviteur humble qui s'avancera et dira « Je crois en Dieu ». Les gens se demandent souvent, je vais dire ceci, écoutez bien, ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre, nulle part dans le monde, par le surnaturel qui l'accompagne. De grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve ça nulle part ailleurs? Revenez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ce fondement-là. Donc, si je suis si profondément dans l'erreur, dans la façon dont je baptise les gens, et dans la façon dont je parle du Saint-Esprit, et dans les choses que je fais, pourquoi donc Dieu y fait-il honneur? Produisez quelque chose de semblable. Voyez? Pourquoi donc? Je ne dis pas ça de moi-même, ce ne serait pas bien, mais j'essaie de vous dire que c'est parce que je m'en tiens à la vérité, à la parole, et à la parole seulement. Prospérer, réaliser de grandes choses et de grands lieux, ça, pour Dieu, ça ne veut rien dire, absolument rien. Ce qu'il faut, c'est de s'en tenir à cette parole. Et alors, Dieu œuvre dans cette parole, confirme cette parole, s'en tient à elle, le signe que le Dieu vivant est parmi nous. Est-ce que vous voulez être comme ça? Vous voulez être lavé, débarrassé de tout ce qui est du monde? Oh là là! Petits enfants, que Dieu vous bénisse. Je m'attends à passer l'éternité avec vous. Je m'attends à être là-bas, avec vous, un jour, dans le glorieux Éden. Et quand j'arriverai là-bas, j'ai eu une vision, il n'y a pas longtemps. Vous en avez entendu parler. J'ai regardé là-bas et j'ai vu tous les gens qui y étaient. Il y en avait des millions. Et j'ai dit, vous voulez dire qu'il viendra à moi? Oui. Et ensuite, nous retournerons là-bas avec toi. J'ai dit, eh bien, est-ce que chaque ministre de l'Évangile devra comparaître comme ça? Oui, monsieur. Chaque ministre de l'Évangile devra comparaître, être jugé selon son ministère, avec son assemblée? Il a dit, oui, monsieur. L'ange qui me parlait a dit ça. Et j'ai dit, dans ce cas-là, Paul aussi devra comparaître? Paul devra comparaître avec sa génération. J'ai dit, alors, je sais que je n'ai pas à m'en faire, parce que j'ai prêché exactement la même chose que lui. Mot pour mot. Et à ce moment-là, des millions se sont écriés. Nous nous reposons là-dessus. Amen. Sur cette parole, peu importe ce que c'était, cette parole. Voilà pourquoi j'oblige les gens à venir, comme ce sera le cas de quelques-uns ce matin, qui vont venir se faire rebaptiser. Paul l'a fait. Paul a rencontré des gens qui étaient tellement heureux, remplis de la bonté de Dieu et tout, qui poussaient des cris et qui louaient Dieu et qui avaient une glorieuse réunion. Il a dit, « Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Acte 19. Ils ont dit, « Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. » En d'autres termes, ils ont dit, « Nous sommes simplement des baptistes. » Voyez, leur pasteur était un prédicateur baptiste. C'est absolument vrai. C'était un homme de loi qui s'était converti. Un baptiste, un prêtre. Paul a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils ont dit, « Nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « Alors, comment avez-vous été baptisé? De quel baptême avez-vous été baptisé? De quelle façon? Comment? qu'en est-il? Nous avons été baptisés par Jean. Ça, ça ne marchera plus. Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit, Jean a seulement baptisé du baptême de repentance. Le plus d'eau possible, de les immerger là-dedans, voyez-vous, pour amener à la repentance. Non pas pour la rémission des péchés, parce que le sacrifice n'avait pas encore été tué. Il a dit, du baptême de repentance, vous disant de croire en celui qui allait venir, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils allèrent directement dans l'eau et furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la Bible. Et Paul, dans Galates 1:8, a dit, c'est un ange du ciel. Maintenant, écoutez, à quoi est-ce que j'en reviens à ces choses hybrides? Éloignez-vous-en. Si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que celui que moi, je vous enseignais, Paul, qui rebaptisait les gens, qu'il soit pour vous un anathème. À plus forte raison, un prédicateur, un évêque, un pape ou un prêtre. Si un ange éclatant, descendait du ciel et disait quelque chose qui soit contraire à ce que lui avait dit, qu'il soit anathème. Comment allons-nous pouvoir tenir le coup, mes amis? Non seulement, bon, vous pourriez avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ et que votre cœur soit sale au possible. Ce n'est pas ça qui vous sauve. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Vous êtes sauvé par votre foi grâce à Jésus-Christ. C'est vrai, mais quand vous arrivez à ce point-ci, que vous voyez ceci et que là vous le rejetez, alors vous reculez. Il y a cette petite histoire, je termine, que j'ai déjà racontée, peut-être ici. Une fois, un aumônier racontait qu'on l'avait fait venir auprès d'un gars sur lequel on avait tiré au moyen d'une mitrailleuse et qui se mourait. Il lui a dit, « Êtes-vous chrétien ?» Il a dit, « Je l'ai déjà été. »« Déjà été ?» Il a dit, « Où avez-vous laissé Christ ?» Il a dit, « Je ne m'en souviens pas. » Il a dit, « Vous feriez mieux d'y réfléchir, parce que vos poumons se remplissent de sang. » Il a dit, « Vous feriez mieux de vous dépêcher, parce que on vous a tiré dessus, juste à la partie inférieure de vos poumons. » Il a dit, « Je sais. » Il a dit, « Vous êtes mourant. » Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Et autrefois, vous connaissiez Christ ?» Oui. Il a dit, « Réfléchissez très sérieusement, là, parce que vous n'avez plus... » Il a dit, « Capitaine, il ne vous reste que très peu de temps, là. Réfléchissez. » Il a dit, « Réfléchissez sérieusement, là. Où avez-vous laissé Christ ?» Et alors qu'il se démenait à essayer d'y réfléchir, au bout d'un moment, un sourire a illuminé son visage. Il a dit, « Je me souviens. C'est ça que vous devez faire. » Souvenez-vous, quand vous vous opposerez à une vérité de Dieu, c'est à cet endroit-là que vous le laisserez. Voyez? Et ça ne vous servira à rien de continuer dans cette direction-ci, parce qu'il faudra que vous reveniez à ceci. Tout ce temps-là, vous êtes sur un chemin détourné. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes sur un chemin détourné. Ils étaient israélites, mais ils n'étaient pas tous sauvés. Voyez? C'est vrai. Voyez? Dès lors, vous êtes sur un chemin détourné. Il faut revenir à cela. Et l'aumônier, il a dit, « Je me souviens. » Il a dit, « Repartez de là. » C'est de là que vous devez repartir ce matin, de l'endroit où vous avez dévié. Il a dit, « Maintenant, je me couche pour dormir. Je prie que le Seigneur garde mon âme. Si je mourrais avant que je me réveille, je prie que le Seigneur emporte mon âme. » Et il est mort. C'était au berceau qu'il avait laissé Christ. Il se peut que vous l'ayez laissé à l'étape du baptême. Il se peut que vous l'ayez laissé à l'étape du Saint-Esprit. Il se peut que vous l'ayez laissé ailleurs. Où que vous l'ayez laissé, n'acceptez pas cette hybridation, cette camelote d'église. Il y a quelqu'un qui vous représente ce matin pour votre salut. Vous n'avez pas à être un pécheur. Vous n'avez pas à l'être. Vous en êtes un. Si vous en êtes un, Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Il ne vous en tiendra pas pour responsable à partir de maintenant. Mais il vous en tiendra pour responsable si vous rejetez ceci. Il ne vous en tiendra pas pour responsable, parce que, dans le passé, peut-être que vous ne saviez pas faire autrement, pour ce qui est du baptême d'eau, de recevoir le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Il se peut qu'il ne vous tienne pas pour responsable de ça. Il se peut que vous ne l'ayez pas entendu auparavant, mais à partir de maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Revenez à la parole, revenez à Dieu. Prions maintenant et réfléchissez-y pendant que nous prions. Seigneur, sachant que je suis mortel et que je partirai bientôt, le nombre de mes jours augmente, là. Il y aura bientôt 52 ans que je suis sur cette terre. Seigneur, je veux être loyal. Je veux être fidèle jusqu'à la fin. Partout dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup de nations, de peuples, de couleurs, de races. de voir le grand nombre de credos et de voir comme ils mélangent tout et toutes leurs petites querelles et agitations de toutes sortes. Alors que dans ces endroits-là, il y a beaucoup d'enfants véritables, beaucoup d'hommes et de femmes dans ces endroits-là, là-bas, dans ce champ hybride, qui ne veulent pas vraiment être là. Ils pensent qu'ils font la volonté de Dieu. Ce matin, je te prie, Père, d'enlever tous les doutes de mon petit groupe qui est ici aujourd'hui et de ceux qui écouteront les bandes, d'éliminer tous les credos faits de main d'homme. Comme Jésus, quand il est venu la première fois, il a constaté qu'ils enseignaient des choses qui n'étaient pas ainsi au commencement. Au commencement, alors que Dieu avait créé cela pur et sans mélange. Mais ce que l'homme en avait fait, il avait pris la parole de Dieu et l'avait annulée en enseignant le credo de l'homme. Père, il en est de même maintenant, à l'approche de la venue de Jésus, de nouveau. C'est tout comme le cep. Si le cep produit un sarment, et que ce sarment soit un sarment de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, et que les signes et les prodiges, les fruits accompagnent ce sarment, si un jour ce cep produit un nouveau sarment, ce sera un sarment de la même espèce. C'est la nature elle-même qui nous enseigne cela, Père. Mais nous savons aussi que tu peux greffer à ce cep tout fruit qui peut s'y rattacher, et il tirera sa vie du cep. Et nous savons qu'on peut prendre un oranger et qu'on peut y faire pousser différentes sortes d'agrumes, 7 ou 8. On peut y greffer des branches de citronnier. Ça va y pousser sans problème, parce que c'est un agrume. On peut y faire pousser des pamplemousses et beaucoup d'autres, des mandarines et beaucoup d'autres agrumes. Mais si cet arbre produit de nouveau une branche qui lui est propre, ce sera une branche d'oranger, Seigneur. Elle sera comme la première branche a été. Et nous croyons qu'il y aura une église dans ces derniers jours qui recevra les deux, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Elle sera dispersée à travers le monde dans cet âge de Laodicée. Ce sera une église qui aura été appelée à revenir à la foi originelle en Dieu. Ce sera une église au milieu de laquelle Jésus-Christ marchera et se manifestera. Le cri du roi sera au milieu d'elle. Ô Dieu, que toi, tu aies commencé âge après âge, et qu'ils aient pris ce cep et fait une greffe dessus, et elle se développe grâce à lui, sous le nom du christianisme, mais tout en continuant à produire une doctrine qui n'était pas enseignée au commencement. Ô Dieu, combien nous le regrettons, Seigneur. Nous ne savons pas quoi faire, mais ce matin, je te prie d'ôter de nos cœurs tout ce qui est fait de main d'homme. Seigneur, prends la véritable parole de Dieu et place-la dans nos cœurs. Je suis sur le point de prier pour les malades, Seigneur. Comment puis-je y aller avec un doute dans ma pensée que Dieu ne va pas exaucer ma prière? Dans ce cas-là, Père, je serai moi-même un hypocrite. Ô Dieu, s'il y a le moindre doute dans mon cœur, pardonne-le-moi maintenant, Seigneur. S'il y a quelque chose que j'ai fait ou dit qui n'était pas juste, pardonne-moi. Que je m'intéresse à ce qui est la vérité. Et Père, je sais que ta parole est la vérité. Je m'efforce de me tenir à cette parole. J'ai été croisé avec autre chose là-bas, Seigneur, et par reproduction des miens, de génération en génération, au point que je sais bien que mon intelligence a été obscurcie. Mais pourtant, je peux regarder ici et voir la parole. Je sais quelle est la vérité. Je désire tant être là-bas, Seigneur. Je m'accroche à cette ancre qui est là dans le rocher. Les tempêtes me ballottent dans tous les sens, mais mon ancre tient. Elle est fixée en Christ et dans sa parole. Je crois que ta parole est la vérité. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais faire de compromis sur la moindre parcelle de cette parole, mais à continuer à avancer avec l'amour divin, à entourer de mes bras tous les peuples, toutes les races, toutes les couleurs, tous les credos, toutes les dénominations, en les attirant vers le rocher. Accorde-le paix. Guéris tous les malades et tous les affligés. Ramène les gens à un réveil à l'ancienne mode, aujourd'hui. Ramène-les à la Pentecôte originelle. Ramène-les à la bénédiction. Ramène-les comme à la Pentecôte qui est descendue en l'an 33 de notre ère. Donne-leur les bénédictions de la Pentecôte. Que la puissance de Dieu vienne dans l'Église. Qu'il y ait des dons de guérison divine donnés à l'Église. Qu'il y ait des gens qui parlent en langue. Quelqu'un qui interprète les langues. Qu'il y ait des dons de prophétie et des manifestations de toutes sortes. Pas une foi artificielle ou d'essayer de croire ou de fabriquer quelque chose. Que ce soit quelque chose de réel, d'authentique, qui vient avec la parole. La parole de Dieu qui est divulguée, qui prophétise des choses qui s'accomplissent. Tu as dit dans ta parole, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est, qui prétend être, ou dont on prétend qu'il est prophète, et si ce qu'il dit ne s'accomplit pas, ne l'écoutez pas. Mais si cela s'accomplit, alors écoutez ce prophète, car je suis avec lui. Ô Dieu, donne-nous des prophètes de cette espèce-là. Donne-nous ceux de la vraie espèce, ceux de la vraie espèce qui parlent en langue, ceux de la vraie espèce qui ont les vraies interprétations. accorde le pain, guéris les malades et les affligés, et fais-toi connaître parmi nous, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Maintenant, vous, tous les fils de Dieu méthodistes, tous les fils de Dieu baptistes, vous, tous les fils et les filles de Dieu, levons simplement les mains, fermons les yeux et chantons-lui ceci, adorons-le. L'aimez-vous? Que tous ceux qui l'aiment disent « Loué soit Jésus !» Disons-le encore, « Loué soit Jésus !» Oh, comme je... En afrikaans, c'est « Praise the Lord !» Jésus, Jésus, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Praise Jésus, Danki Jésus, merci Jésus. Oh là là, quel jour! Oui, oui, combien je loue, combien nous rendons grâce à l'Éternel qui est bon pour. Adorez-le simplement, un message dur et tranchant comme ça. Adorons simplement, retrouvons la douceur de l'esprit.
Precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps a
donne-nous la bonne note.
Let's sing it again. Don't you love that? Let's sing. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called His bride.
Lord will bring. His chosen ones within the gate, and that's worth everything.
Tous en cœur maintenant. Serrons-nous la main pendant que nous le chantons. Maintenant, levons les mains vers lui. Je ne puis l'abandonner parce qu'il me représente. Amen. Il est mon sauveur parce qu'il est mort pour moi. Je suis indigne. Mais parce qu'il m'a pris comme sien, il est devenu moi pour que je puisse devenir lui. Il est devenu un pécheur et il a pris mes péchés pour que je puisse être un fils de Dieu. Ces vieux cantiques, ça vous fait quelque chose, n'est-ce pas? Je me rappelle une petite famille de gens de couleur qui venaient ici, dans le temps. Un homme, sa femme, une petite fille. Maintenant que je ne peux pas le chanter, mais je vais essayer. Je sens le Saint-Esprit sur moi. Amen. Ça disait, « Oh, quel amour précieux le Père a eu pour la race déchue d'Adam. Il a donné son Fils unique pour qu'il souffre et nous rachète par sa grâce. » Oh, j'aime ça.
what precious love that Father had for Adam's fallen race. Gave his only son to suffer.
J'aime ça, pas vous? Il y a quelque chose là-dedans, n'est-ce pas? Bon, ces messages sont durs, sévères et tranchants. C'est ça qui est la parole de Dieu. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Mais quand tout est terminé, voyez-vous, le glorieux Saint-Esprit est posté ici, quelque part dans le bâtiment. Il surveille. Des anges. Oh! Et puis, après que tout est terminé, on le voit tendre son bras, et les bénédictions se mettent à descendre. Nous levons les bras vers lui, et nous l'adorons dans la douceur du Saint-Esprit. Ça vous fait quelque chose, n'est-ce pas? Ça vous nettoie vraiment à fond. Ça vous donne un nouveau départ. Ça vous ramène à la parole. Combien sont malades, là? Dites, je viens pour être guéri ce matin. C'est l'heure de ma guérison. 1, 2, 3, 4, 5, environ 8 ou 10 d'entre vous. Très bien. Je me demande si mes petits, ici, voudraient bien me rendre un service. Vous le voulez bien? Je me demande si vous pouvez tous venir un peu par ici, maintenant. Je vais vous demander, à vous, de venir vous placer ici, le long de l'autel, pendant que nous prions, pendant que nous continuons à chanter. Ceux qu'on va oindre, et pour qui on va prier. Frère Neville, viens, et nous allons prier pour eux. Puis nous aurons le baptême d'eau. Ensuite, la réunion sera officiellement terminée. Dans environ 2 ou 3... Dans environ 10 minutes au plus, je pense. Très bien.
Oh, what precious love that Father had for Adam's fallen race. Gave his only son to suffer.
S'il y a quelqu'un qui saurait où se trouve cette petite famille de gens de couleur, je voudrais bien qu'ils reviennent chanter ça pour moi pendant le réveil. Ils habitaient rue Broadway, quelque part par là. Je ne me rappelle plus leur nom. Un homme, sa femme, une petite fille. Ils y mettaient cette petite pause, vous savez, on fait comme ça. Oh, quel amour précieux le Père a eu pour la race déchue d'Adam. Il a donné son Fils unique pour qu'il souffre et nous rachète par sa grâce. Vous voyez de quoi il s'agit? La race d'Adam était déchue. Elle s'était croisée avec autre chose. Elle s'était dégradée complètement. Elle était passée d'une réelle incrédulité spirituelle à l'égard de la parole de Dieu à des actes sexuels, à toutes sortes de saletés, jusqu'à descendre à ce qu'il y a de plus bas. Et, oh, quel amour précieux le Père a donné pour la race déchue d'Adam. Il a donné son Fils unique pour qu'il souffre. Il est descendu vers ce qu'il y avait de plus bas. Et il nous a rachetés, nous a ramenés à la hauteur de sa parole. Il nous a rachetés par sa grâce. Et maintenant, ce matin, nous nous tenons ici par sa grâce, disant, nous sommes ses enfants, nous avons droit à ses bénédictions. Jésus-Christ est mort pour guérir chacun de vous. C'est vrai, il l'a promis. Et ici, nous savons que c'est la vérité. Combien d'entre vous savent que c'est la vérité? Alors, c'est votre propriété. Ça vous appartient, c'est à vous. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous empêcher de recevoir ça. C'est Satan qui essaie de vous raconter un mensonge hybride. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Croyez-vous que c'est la parole de Dieu, ça? Maintenant, ne laissez pas Satan vous raconter quoi que ce soit d'autre. La parole de Dieu dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Jusqu'où? Par tout le monde. Ce qui n'a encore jamais été atteint. Par tout le monde. Combien de temps est-ce que ça devait durer? Jusqu'à la fin du monde. Quoi donc? Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est la parole. Maintenant, basez-vous là-dessus, chaque principe de Dieu, reposez-vous carrément dessus. Puis, arrivez-en là, dites, « Oh Dieu, je me suis repenti, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, j'ai reconnu le sang, j'ai reconnu le Fils de Dieu, je te reconnais, mon Père. Tu m'as béni en me donnant le Saint-Esprit. Maintenant, Satan essaie de me frapper et de me rendre malade. Je m'approche avec assurance. Amen. Sans condamnation, j'ai gardé ta parole. Je n'ai pas bougé comme Ézéchias. Alors que le Seigneur avait dit, « Dis à Ésaïe, va lui dire qu'il ne sortira plus du lit, il va mourir. » Il dit, « Seigneur, j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. J'ai besoin de 15 ans de plus. » Le Seigneur a dit au prophète, « Retourne lui dire que je l'ai entendu, il va vivre. » C'est vrai, ça change beaucoup de choses. C'est comme ça que vous devez venir, sans condamnation. S'il y a de la condamnation, vous ne faites que battre l'air. Vous devez en arriver là, être pur et libre de tout. J'y crois, je me tiens ici. Seigneur, j'y crois. Si vous êtes un pécheur, que vous ne connaissez pas Dieu, dites à Dieu ici même, « Seigneur, je veux être guéri, je veux te servir, mais maintenant, je te donne mon cœur. Me voici, utilise-moi. » Comme le prophète l'a dit dans le temple, « Me voici, envoie-moi, Seigneur. » Et l'ange avait pris une pierre ardente. Maintenant, nous sommes dans l'église, sur les champs d'évangélisation. Nous utilisons l'autre type de ministère. Ici, la Bible dit, pour l'église, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens loignent d'huile et prient pour lui. La prière de la foi sauve les malades. Ça, vous le savez. Jacques 5, 14. Père Neville, ici, notre pasteur, un homme bon, envoyé de Dieu, est rempli du Saint-Esprit. Combien ont remarqué que Frère Neville monte de plus en plus dans les hauteurs? Avez-vous remarqué ça? Dimanche passé, je l'ai entendu prophétiser. C'était la première fois. Qui aurait dit qu'un jour, ce prédicateur méthodiste se tiendrait là, comme ça? Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il s'est passé quelque chose. Voyez? Oui, ils accèdent à ces choses. C'est tout simplement automatique. Voyez, vous revenez à la naissance qu'il faut, alors forcément que vous allez avancer. Placez la vie dans un grain de maïs et mettez celui-ci dans de bonnes conditions. Il va pousser. Laissez-le tranquille. Il va pousser. C'est pareil pour l'Église. Si vous pouvez revenir à ce qu'il faut, alors tenez-vous-en à saint. Continuez à avancer avec le soleil et l'eau qu'il faut, et les louanges, et les alléluia, et les chants, et tout. Ça va produire ceci. Ça va prendre forme continuellement jusqu'à en arriver au point où vous pourrez tendre le bras et recevoir. Tout est possible à ceux qui croient. Maintenant, quand il vous oindra d'huile, je vais vous imposer les mains. Bon, d'abord, je vais prier pour chacun de vous. Et je voudrais que vous, ceux qui sont dans la ligne, vous vous imposiez les mains les uns aux autres. Maintenant, posez simplement vos mains les uns sur les autres. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bon, la Bible n'a jamais dit « Si Frère Branham impose les mains sur eux », elle a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » S'ils imposent les mains, pas vrai? S'ils imposent les mains, vos mains sont exactement comme les mains de n'importe qui d'autre. Voyez, après tout, ce sont les mains de Dieu qui comptent. Et donc, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, avec vos mains posées les uns sur les autres, courbons la tête. Je veux que vous, l'Église entière, là, vous priez pour ceci. Notre Père Céleste, nous amenons à toi cette grande ligne de gens malades. Ô Dieu, pense-y beaucoup de ceux qui sont ici. Je veux croire que tous, ils sont tes enfants, nés de l'Esprit, lavés dans le sang, remplis du Saint-Esprit, prêts pour la venue. Et Satan ne peut pas les atteindre de ce côté-là. Pour les faire pécher, il ne peut pas les atteindre, pour les faire douter de ta parole, croire qu'elle est fausse. Ils avancent et la suivent vraiment à la lettre. Par contre, ils essaient de venir affliger leur corps, parce qu'ils savent que leur corps est encore péché, mais leur âme est sauvée. Leur corps doit retourner dans la poussière, mais leur âme ira vers Dieu. Alors ils essayent d'affliger cette partie-là, comme il le peut. Mais je suis si heureux que tu aies aussi inclus le salut pour ce corps. Ceci, c'est le gage de notre résurrection, la guérison de notre corps. Et Seigneur, il a été établi qu'il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, des millions d'âmes et des millions de corps qui ont été guéris. Alors nous savons que tu es Dieu. Et maintenant, ils s'imposent les mains les uns aux autres. Regarde-les, Seigneur. Chacun s'intéresse à l'autre. Chacun veut savoir, quelle que soit l'église à laquelle ils appartiennent, quelle que soit leur affiliation, quelle que soit leur couleur ou le credo qu'ils... Ça n'a rien à voir, Seigneur. Ils sont tes enfants. Certains d'entre eux sont méthodistes. Certains sont de l'église baptiste. Certains sont de l'église presbytérienne. Peut-être que certains sont catholiques. Je ne sais pas. Certains sont pentecôtistes. Mais tu ne les connais pas sous ce nom-là. Tu les connais comme les tiens. Ils ont été acquis par le sang. Et ils se tiennent debout ici. Ils croient à la parole. Et ils s'approchent avec assurance. Et je plaide en leur faveur. Comme ton serviteur, ô Dieu, qu'il n'y ait pas une seule personne faible dans ce bâtiment à la fin du service. Que tous ils soient guéris. Alors que ton ancien, qui est loin, s'avance, il met de cette huile, ce petit peu d'huile qui descend sur leur front et qui symbolise, l'huile c'est l'esprit. Nous l'appliquons là pour que les gens sachent que cette huile d'olive vierge a été mise sur leur tête d'une manière semblable à la venue du Saint-Esprit. Puis, quand je leur imposerai moi-même les mains, puissent-ils retourner à leur place, vraiment heureux et dans la joie, une œuvre terminée. C'est fini, ils sont guéris, ils rentrent à la maison pour être en bonne santé. Accorde-le, Seigneur. Alors les cris de joie et les louanges s'élèveront d'un bout à l'autre de la ville, dans les différents endroits où ces gens iront. Vous savez, à un moment donné, j'avais des problèmes d'estomac, mais c'est parti. À un moment donné, j'avais telle et telle chose, certaines maladies, mais c'est parti. C'est que ce matin-là, j'ai écouté le message, engendré, ramené à la parole, et je suis revenu à la parole, je crois à la parole, et maintenant, je suis rétabli. Accorde-le, Père, je te les confie. Au nom de Jésus-Christ.
With our heads bowed, I want the elder to go far enough to Teddy, if you will, some of you sing only.
Maintenant, avec nos têtes inclinées, je voudrais que l'ancien s'avance. Que Teddy, s'il te plaît, quelques-uns d'entre vous, chantez, crois seulement, maintenant comme vous le pouvez. Et que ceux qui sont déjà passés retournent tout de suite à leur place. Comme nous oindrons les gens et prierons pour eux. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, alors que j'impose les mains à cette femme, avec l'huile d'onction toujours sur elle,